Si la technologie reste un mystère pour toi, si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner, on ne peut plus rien pour toi. Enfin presque, seules trois lettres peuvent te sauver. ATG.
L'Annonce Toubi, le podcast des champions. Prends de l'information, réponds à vos questions. L'agence Toubi, va ton beau caston. Prêt pour la transmission, telle est la mission.
Bonsoir les geeks.
Bonsoir.
Formidable. Une nouvelle émission, l'épisode 73 ou 74, je sais plus. 74, je crois.
Ouais, ça doit être ça.
Quelque chose comme ça.
Après Jésus-Christ.
Et nous retrouvons autour de cette table en ce début février, Lord ton père.
Où ça? Ah, bonsoir.
Bonsoir Lord ton père. On a Herbie, bien sûr, fidèle au poste.
Bonsoir. Après, quel fuseau horaire pour février là?
Ouais, je vais y réfléchir. On a Nico qui est revenu. Merci,
oui, il est
Nico.
Toujours là. Salut.
Et alors formidable, on a Clémence qui est restée. Qui est revenu pour faire un épisode avec nous.
Hello,
ce soir.
Salut.
Et cette fois en tant qu'invité, parce que Clémence, on a plein de questions à lui poser sur son travail, sur ses activités podcastiques. Bref, on va en parler. Et qui est resté près d'un micro. Donc si tu veux intervenir, tu es le bienvenu.
J'y ai pris goût, c'est devenu comme une drogue.
Voilà, Christophe.
Je veux tout savoir de Clémence.
Voilà, Christophe Lambert est là avec nous, puisque nous enregistrons maintenant plusieurs épisodes dans une soirée. Ça nous permet
De
vous en donner plus, exactement. J'espère que vous appréciez la nouvelle formule. Donc, des news, il y a des news au max dont je n'ai pas du tout parlé la dernière fois dans le dernier épisode, puisqu'on on est parti sur autre chose. Donc là, je vais en parler. Hein.
Alors, quelles sont les prochaines news max?
Eh bien, il y en a une début mars, mais qui est complète, donc c'est pas la peine que je vous la vende, mais qui va être vraiment super, c'est la nuit Black and Chrome. Nous allons projeter Mad Max Fury Road version Black and Chrome, c'est-à-dire version noir et blanc, comme son réalisateur George Miller l'avait souhaité. Et ça, c'est une exclusivité des news max, puisqu'il n'y aura probablement pas d'autres diffusions grand écran, ou en tout cas sur un écran aussi formidable que Max.
Vous avez passé un film, vous l'avez passé en noir et blanc.
C'est ça. Non. Alors, tu poses une excellente question, Lord ton père. Miller a retravaillé la colorimétrie du film. Donc, d'abord, il n'est pas complètement en noir et blanc. Il est noir et blanc, mais quand même, sur certaines scènes,
il laisse de la couleur.
Il y a une légère teinte. Donc, les scènes de nuit, c'est légèrement bleuté. Il y a des moments où c'est un petit peu plus sépia, mais c'est très, très, très léger. Dans l'ensemble, le film est quand même black and chrome, comme ça a été voulu.
Il n'y a pas des petits éléments ponctuels en couleur.
Non, pas du tout.
Les poissons rouges de Rumblefish, de Rusty James, de Coppola.
De Coppola, ah oui.
Ou le manteau rouge de
Schindler. Non, il n'y a pas du tout d'éléments. En couleur, c'est vraiment noir et blanc, mais avec de temps en temps les légères teintes. Et ce qui est formidable, c'est surtout le travail du grain, du contraste, et il y a un vrai... le film prend une ampleur absolument incroyable. Moi, j'ai déjà revu sur mon vidéoprojecteur en black and chrome, puisqu'il y a une édition
Le montage est différent uniquement.
Ah non, c'est exactement
le même montage.
C'est le même film, mais il a retravaillé toute la colorimétrie, donc en noir et blanc, et surtout le contraste, le grain, et ça donne un effet absolument renversant. Moi, je l'ai revu donc à la maison. Il y a une édition complète qui est pas chère en plus du tout, que vous pouvez trouver à la Fnac ou sur Amazon, dans laquelle il y a la version black and chrome, et officiellement le Blu-ray uniquement de la version black and chrome sort le 1er mars, je crois. Mais on peut déjà le trouver en France dans une intégrale des Mad Max, que je vous recommande, parce que je crois qu'en effet, elle est aux alentours de 15 euros sur Fnac.com, donc c'est vraiment pas cher. Ouais. En Blu-ray.
Qu'est-ce que t'as d'autre en...
Alors, dans cette soirée black and chrome, on passe donc ce Mad Max Fury Road, et ça va vraiment être génial. Et après, on passe à un autre film absolument extraordinaire qui n'a jamais été projeté en noir et blanc, alors qu'il était destiné à être diffusé en noir et blanc. c'est le même travail de réalisateur que George Miller, c'est le film de Frank Darabont, The Mist, tiré de Stephen King, qui est un film absolument terrifiant, horrible,
notamment
on peut le dire.
La fin.
La fin est abominable. C'est un film qui marque son spectateur. Moi, ça m'a traumatisé. Mais
il y a un côté série B un peu sympa, Ray Harryhausen, bête à tentacules.
Il y a même un côté. Bah,
c'est celui avec le supermarché.
Oui, l'intention de Frank Darabont.
Avec le brouillard.
Avec le brouillard. Bah, The Mist, ça veut dire le brouillard.
Ah anglais. Ouais, tiens.
C'est ça. Et donc, il y avait une intention de Frank Darabont. D'ailleurs, il présente le film dans la version noir et blanc. Il dit moi, j'étais très influencé par les films d'horreur des années 50, et donc j'ai voulu recréer cette ambiance tout à fait unique. Et malheureusement, les producteurs n'ont pas voulu sortir le film en noir et blanc, ils l'ont sorti en couleur. Il y a un travail de design sur les monstres qui est incroyable dans ce film, c'est absolument terrifiant. Enfin, moi, j'ai été très sensible. Et en plus, le personnage principal, c'est un hommage, c'est un illustrateur d'affiches de cinéma. Et c'est un hommage direct à l'illustrateur célèbre Drew Struzan, qui a fait énormément d'affiches de films. Et je pense que, enfin, j'en suis même sûr, Darabont a voulu lui rendre hommage et en a fait son personnage principal dans le film. Herbie, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, alors donc celle-là, on peut pas acheter, on peut pas, il y a plus de place. Mais
alors voilà, malheureusement, je suis en train de vous la vendre à fond.
À quoi
moi, je vais y aller maintenant.
C'est ça.
Voilà. Donc du coup, à quoi
alors,
on peut accéder encore ?
Non, mais alors.
Il reste quelque chose là ?
Non, malheureusement, il y a plus de place. Mais vu le succès de cette nuit, bon, cette année je suis bouclé au niveau des nuits, on a déjà énormément de dates de prévues et énormément de choses à faire, mais il est clair que c'est probablement quelque chose qu'on va essayer de revisiter l'année prochaine, de faire revenir comme on a fait revenir les nuits Miyazaki qui sont devenues les nuits Ghibli. Alors c'est pareil, en avril nous avons une nuit Ghibli et malheureusement je ne peux pas vous la vendre car elle est aussi complète. Et on a fait une séance...
File-nous le programme de l'année prochaine.
On a fait une séance supplémentaire le vendredi soir, donc c'était le samedi soir.
Il reste des places ?
Non, elle est complète, pareil, en une journée, c'était...
Où est-ce qu'il reste de la place, en fait ?
Alors, il reste de la place dans une nuit... Alors,
totalement
attendez.
Un truc dont personne ne veut.
C'est ça.
Alors, il y a la nuit Underworld.
Et en fait, c'est ça qu'il veut nous vendre.
Il y a la nuit Underworld, mais au moment où je publierai ce podcast, elle sera déjà passée. Là, il restait de la place, bizarrement. Mais par contre, il y a une nuit qui
est
en cours.
Les trucs où il n'y a plus de place, les trucs qui sont déjà passés.
Il okay. y a une nuit qui, j'espère pour vous, ne sera pas complète, mais.
En 2019.
Je ne sais pas. C'est le fin mars, il y a une nuit pirate. Avec
de Polanski.
Les Goonies, Pirates des Caraïbes et Hook. Donc c'est pour les nostalgiques des pirates des années 80. On est en plein dedans. Et donc on a commencé à les mettre en vente et ça part plutôt pas mal. Donc je ne sais pas si au moment
dépêchez-vous.
Où je publierai ce podcast, il restera des places. S'il en reste, dépêchez-vous.
Et la nuit Max Pécasse.
Mais c'est prévu. Grand réalisateur d'humour français.
Il n'y a plus de place.
C'est déjà
deux enfoirés à Saint-Tropez.
C'est ça. Mon curé chez les nudistes ou chez les Thaïlandais.
Ah, par contre, il paraît qu'il reste de la place pour les bronzés.
Mais tu sais que j'y ai pensé à faire une nuit pour les bronzés. Ça pourrait être sympa, hein, franchement. Hein.
Celui au ski est exceptionnel.
Même celui au Club Med, l'équivalent Club Med est vraiment très très bien.
C'est surtout, est-ce que tu diffuses le tout dernier ?
Ah non, alors non. Ça, non. Non. Les bronzés 3, non. Bref, donc les Nuomax, suivez de près le Facebook des Nuomax ou le site nuomax.com.
Parce que si vous attendez que Mister D en parle dans ce podcast-là, de toute façon, ce sera vendu.
Et vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et l'intérêt de la newsletter, c'est que quand vous êtes abonné, vous avez accès à une pré-vente des places. Il y a une centaine de places qui sont mises en vente au moment où on envoie la newsletter aux gens qui sont abonnés.
On a pendant 10 secondes à peu près.
Eh bien, tu rigoles, mais... Alors, tu vas rire, mais c'est vrai que quand on a annoncé la nuit Ghibli, on était ensemble lors de ton père au cinéma. Et Christophe était là aussi, parce qu'on a été voir Rogue One.
Tu m'as dit, ça y est, c'est publié. Puis tu m'as dit, ça y est, c'est fini.
j'ai juste rafraîchi la page des ventes de places. Et en 10 secondes, il n'y avait plus rien. Quoi. Les 100 places, 100 premières places étaient parties en 10 secondes. C'est assez exceptionnel, faut l'avouer. Bon, mais il se trouve que Ghibli et Miyazaki sont des gens qui ont un phénomène de fans et d'attraction qui est incroyable. Je suis même un peu surpris quand même qu'il n'y ait pas plus de projections de films de Miyazaki. Bon, il y a aussi il faut voir que l'écran du Maxlinder, quand même un écran, une salle absolument remarquable. C'est pas la même chose de voir un film culte devant un écran de 18 mètres dans une salle qui a autant d'ampleur que de le voir dans une petite salle, même très sympathique, où il n'y a que 100 ou 150 places. On n'a pas les mêmes dimensions, quoi. Non, mais j'ai rien contre les petites salles, au contraire. Mais je veux dire, c'est aussi l'intérêt des Nuits au Max, c'est de pouvoir redécouvrir des films grand spectacle sur un grand écran avec un gros son, avec 500 personnes autour de soi.
Et puis voilà.
Voilà,
je pense une ambiance.
Je pense que Black & Chrome, quand on va le projeter, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, les amis. Mais je pense que quand on va le projeter, ça va être la folie furieuse. Bref. Voilà, c'est l'actualité des Nuits au Max. Je ne peux que vous recommander d'aller vous inscrire à la newsletter pour être au courant des prochaines nuits. Lors de ton père, une petite annonce. Tout se passe bien à l'apéro du Capitaine?
Bah, tout se passe bien. Clémence peut en témoigner. Un univers exceptionnel, des émissions exceptionnelles avec des animateurs non moins exceptionnels.
Tout à fait.
Je l'ai bien vendu.
Et l'alcool qui coule à flot jusque sur l'ordinateur de Quaco.
Voilà, qui ne marche plus.
Voilà, que j'ai cassé. j'en suis fort peiné. Herbie, une actu perso, toujours le blog.
Et
des billets et des nouveautés.
Oui, j'essaye de continuer. Je crois que cette semaine, c'est râpé pour mettre une chronique, mais j'essaye d'en pondre une à la semaine. Ouais. Et puis, toujours, j'essaye de rattraper le retard sur les anciennes ATG dont je n'ai pas fait les fiches de récapitulatif.
Oui, c'est mal, c'est très mal. Donc, l'affaire Herbofol, herbofol.fr.
Je me suis acheté un .com. Hein.
Très bien, très bien. Pour suivre l'actualité d'Herbie. Et aussi, vous pouvez retrouver Herbie sur Twitter,
@herbefol.
Herbefol, avec un H. Et @ lors de ton père, mais ça, tout le monde le sait.
Ah, c'est facile. Hein.
L'homme qui...
Il s'y passe pas grand-chose. Hein.
Ouais, mais quand même. Et Nico aussi est sur Twitter.
Et oui, c'est Curpio, C-U-R-P-E-O. Vous pouvez me retrouver.
@curpio. Tout à fait.
Exactement.
Nico, de l'actu, du boulot,
écoute,
plein de boulot.
Boulot. Là, on va s'amuser ce week-end parce que dimanche, j'ai un shooting avec nos amis cosplayers. Donc, on va faire un shooting avec Wolverine, Spider-Man. Il va y avoir Boba Fett.
C'est le cosplayer que je connais.
Il sera là.
Johnny Penn.
Il sera là, lui, et ses potes, et sa copine, et la fille du pote. Donc il y aura du monde.
Ils sont bons.
Et
hein.
Sa mère. Et ça. Alors je ne sais pas si la mère est cosplayeuse, mais c'est une sacrée équipe. Et puis ouais, ils sont super bons. Ils sont. J'adore quoi. Le détail des costumes, le roleplay vraiment. Hein, ils incarnent leur personnage et. Et voilà, et on s'est bien amusé. On a fait récemment une petite opération justement pour Sony avec notre ami Spider-Man et il a bluffé tout le monde. Hein. C'était
d'accord.
Vraiment.
D'autant que Spider-Man est une production Sony.
Production Sony, voilà,
Sony Columbia.
C'était parler un petit peu d'Homecoming, hein, ouais. Qui est le prochain là, qui doit arriver. Donc voilà.
Et alors je te remercie Nico car tu m'as fait un cadeau et ça me touche beaucoup. Alors, lors de ton père l'orne dessus, il a très envie de le récupérer, mais je vais le garder. Tu m'as acheté le The Original Light Bowl. Et le light bowl, c'est la fameuse lumière que l'on peut mettre dans ses toilettes pour la nuit, l'éclairer de la couleur que l'on veut.
Là, c'est pour les personnes âgées qui ont besoin de se lever de la nuit, problème de prostate,
mais
tout ça.
C'est mon cas. Et j'ai aussi des enfants en bas âge qui se lèvent la nuit pour aller aux toilettes. Et donc, on n'a plus besoin d'allumer la lumière parce qu'on s'en rapproche de sa lunette de toilette et elle s'illumine.
Exactement.
Sauf que si tu poses tes fesses, tu ne vois plus la lumière.
Oui,
mais tu bronzes les fesses.
Alors dès que tu rebouges un petit peu, ça se rallume.
Bon, ça a l'air magnifique. C'est un Telexa que je vous recommande. Alors on le trouve facilement sur internet.
Oui, sur internet. Celui-là vient d'Amazon, de nos amis d'Amazon.
D'accord.
Mais on trouve. Alors il y a plusieurs versions. Par contre, j'ai vu. Donc il y a des clones qui sont arrivés, forcément. Alors je ne sais pas si Samsung propose une version avec une batterie.
C'est le moment de mettre le Telexa. Ah oui, alors celui-là, c'est quoi? Ça marche avec des piles?
Mais ce sont des piles, et le fait d'avoir un détecteur de mouvement, ça permet de limiter la consommation. Pour moi, c'est l'innovation 2016. Tu vois, on en parlait à la dernière émission. Finalement, je l'ai trouvé, c'est celle-là.
Ouais, écoute,
c'est la version boule à facettes qui transforme les toilettes de nuit
non.
Avec de la musique.
Non,
c'est
par
sympa,
contre, je suppose qu'avec 2-3 accessoires, tu dois pouvoir faire ce que tu veux.
Et tu peux utiliser la baillette.
Voilà, exactement.
Ça a l'air facile. Hein. En tout cas, ça a l'air très
pour
simple.
Pour faire des caracas.
Non, ton père. Ça a l'air très simple d'installation. Tu vois, il y a une petite pince qui j'imagine, est le détecteur infrarouge qui doit détecter les gens.
Tu peux le mettre à côté du truc qui fait du bleu.
C'est ça. D'un côté, t'as le truc qui fait du bleu et de l'autre côté t'as
alors
le
truc qui fait de la lumière.
Voilà. Et alors surtout, ce qui est intéressant, donc il a un détecteur infrarouge.
Voilà.
Et il envoie de la lumière colorée dans les toilettes.
Oh là là.
C'est un système très simple.
On choisit sa couleur, quand on l'allume, les couleurs cyclent. Dès qu'on a la couleur qu'on aime bien, on appuie et puis voilà, ça reste bloqué là-dessus.
Je vous recommande le light bowl, il y a 8 couleurs possibles.
Et puis c'est, je me souviens plus exactement du prix, mais c'est autour de 15 euros.
Oh, bah c'est formidable, merci. Je suis extrêmement touché.
On peut illuminer son voyage au WC.
Oui.
Ce cadeau, ça me. Ça me fait très très plaisir. Et merci beaucoup. Range mon lightball dans sa boîte.
Ah oui, dans sa petite, dans son écran de carton.
Voilà.
Ouais, c'est la foire du trône. Hein.
C'est ça. C'est la foire du trône. Ok.
Tu devrais faire du marketing.
Et Clément, c'est vraiment content d'être venu ce soir.
Bon, si on essayait de s'échapper de ce podcast.
Non, je crois qu'on va y rester. Et on va passer à la mission. Ça va être plus simple. Allez, c'est parti. Alors les petits gars, toujours prêts ?
Oui,
oui chef.
Très bien, alors ce soir on va interroger Clémence sur son travail, sur ses travaux, les 12 travaux de Clémence. Et surtout, on la laisse pas ressortir tant qu'elle nous a pas tout dit et tout révélé.
Elle ne s'échappera pas.
Alors, Christophe regarde ça en se disant, mais quel débile je suis tombé.
J'ai eu de la chance de passer avant.
Il est passé en premier. Bref, Clémence, je ne sais pas si depuis la dernière fois, on t'a entendu dans l'apéro du Capitaine, parce que je ne sais pas si Quacos a eu le temps de rattraper son retard.
Non.
Et si, mais peut-être, hein, on ne sait jamais, hein, peut-être que Captain Web aura eu une illumination et aura publié 5 épisodes d'un coup.
Une illumination en 8 ans, on ne l'a jamais eu.
Mais on ne sait jamais. Bref, pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas écouté, est-ce que tu peux nous parler de ton métier actuel, Clémence ?
Actuel, hein ?
Oui.
Donc, je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans et je suis manager d'un escape game à Paris qui s'appelle Epsilon Escape.
Epsilon Escape, un escape game. Alors, bon, on va résumer rapidement pour les gens. Lors de ton père, tu résumes ce que c'est un escape game ?
Je vais raconter que des conneries. Tu me corriges, hein, tu n'hésites pas. Si je ne dis pas de bêtises, bah, l'escape game... Alors moi, j'avais découvert ça d'abord sur des petits jeux flash qui existaient sur Internet, où l'idée, c'est qu'on se retrouve... Alors, dans l'escape game, sur les petits jeux, on est tout seul, mais là, je crois qu'on est en équipe. Mm-hmm. On se retrouve donc dans un lieu inconnu avec des différents thèmes, je présume. Et l'idée, bah, c'est, comme le dit le mot en anglais, c'est de s'échapper. Et il va falloir trouver, de fil en aiguille, des indices, des choses cachées dans la chambre. Et puis, bah, peut-être qu'on sortira, peut-être qu'on sortira pas. Et je crois qu'il y a un maître du jeu qui aiguille un petit peu s'il voit que les joueurs sont vraiment trop mauvais. Il va essayer de leur donner des indices. Je crois qu'il y a un temps limité peut-être aussi. Mm-hmm. Et peut-être des événements qui se passent ou des choses un peu mystérieuses.
Effectivement.
C'est pas mal résumé. Qui autour de cette table a déjà fait un escape game ? Christophe ?
Deux fois avec mes filles. Ouais.
Ah, c'est sympa.
Une fois à Paris, une fois à Rodez, dans l'Aveyron.
D'accord.
Un escape game rue Ténois.
Très bien.
Parce qu'il y a des trucs à Rodez dans l'Aveyron.
C'est incroyable. Nico ?
Non, pas encore.
Herbie ?
Non, j'ai pas eu l'occasion.
Est-ce que vous êtes tenté ?
Oui.
D'accord. Bah, il va falloir aller voir Clémence, on va organiser ça.
Mais oui.
Et donc, Clems, il est où ton escape game exactement ?
Alors, mon escape game, il est au 137 boulevard de Sébastopol. Donc métro Strasbourg-Saint-Denis ou Réaumur-Sébastopol, c'est vraiment tout près de la Gaîté Lyrique.
Oui.
Et en plein cœur de Paris.
La Gaîté Lyrique qui est devenue le lieu dit des cultures du numérique, des nouvelles technologies.
Art
numérique, c'est un endroit hyper branché, donc situé vraiment au cœur de Paris.
C'est ça. Et c'est le quartier d'ailleurs des escapes à Paris parce qu'on est, je dirais, dans un rayon de 500 mètres. On doit être 6 enseignes.
Ah ouais, carrément. Alors c'est très à la mode. D'accord. Epsilon Escape. Vous avez un site epsilonescape.fr et donc on peut voir des images sur Google, on peut voir des images de à quoi ça ressemble et on peut retrouver ça facilement. Alors on va pas trop parler du principe de l'escape game. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir d'abord comment tu en es venu à faire de l'escape. C'est un hasard ou tu t'y intéressais ou c'est un peu tout ça?
Alors c'est plein de choses comme ça mélangées. Mon escape, c'est déjà un secteur qui est récent. Hein. Les premiers escapes en France ont ouvert il y a, je dirais, 2 ans et demi, 3 ans grand maximum. Mmh. Donc il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation pour travailler dans ce domaine-là aujourd'hui. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que la grande majorité des gens qui travaillent dans le secteur ont des profils super atypiques. C'est des gens qui ont fait plein de trucs avant. Ou alors, il y en a une petite partie, c'est des businessmen qui ont flairé le bon filon, qui ont vu que ça marchait et qui s'y sont mis aussi. Mais bon, ceux-là, on n'en parlera pas, c'est moins intéressant.
Oui, parce que chez Epsilon Escape, évidemment, ce sont des vrais passionnés de l'escape qui ont monté ça.
Effectivement.
Donc, alors, tu n'es pas tout seul.
Alors, je ne suis pas toute seule. En fait, les deux grands patrons d'Epsilon, c'est Guillaume et Florent. Mmh. Moi, j'étais amie avec Guillaume. Ça fait, enfin, je suis toujours amie avec Guillaume, hein, même si maintenant c'est aussi mon patron.
Ah, ouais, c'est dur de rester amie.
Mais donc on se connaît depuis plus de 10 ans et en fait, avant de travailler dans Escape Game, j'étais journaliste.
Oui.
En radio notamment, mais oui. Pas que. Et puis j'avais. Pour la faire courte, j'avais envie un petit peu de voir autre chose. J'avais envie de changer de rythme parce que je travaillais en matinale. Ça faisait 2 ans que j'étais en matinale.
Ah, ça doit être dur, ça.
Enfin, non, ça faisait 5 ans même. Donc debout à 4h du matin tous les jours. Plus trop de vie sociale.
Le soir couché à 8h parce que sinon on s'effondre.
Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on a marre de pas voir de gens. Donc du coup, tu te couches tard et après, t'es crevé tout le temps. Et bon. C'était un peu compliqué socialement, c'était un peu compliqué financièrement aussi. Et puis je faisais du flash info à l'époque, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais le flash info, c'est un super exercice, c'est très formateur, mais au bout d'un moment c'est un petit peu répétitif.
Oui.
Tous
les quarts d'heure.
Tu fais de la synthèse, alors tu réécris tes flashs à chaque fois, parce qu'il faut justement que l'auditeur qui écoute toute la matinale n'ait pas tout le temps l'impression d'écouter la même chose. Tu mets à jour tes actus, et puis voilà, il y a un gros travail de pédagogie à faire. Il faut te dire que une personne qui vient de se lever, donc qui est encore mal réveillée, qui est en train de se brosser les dents,
c'est moi.
Voilà, elle doit réussir à comprendre. Tu dois réussir à lui faire comprendre en 3 phrases la dernière réforme fiscale.
Ouais, super. Mais je la comprends pas. Il y a que ton père qui arrive à comprendre.
Ah bah je vais te la faire comprendre. T'es dans la merde.
Je crois que j'en ai bien compris.
Le boulot d'un bon flashman, justement, c'est de réussir à synthétiser pour donner les informations importantes, mais et faire en sorte que les auditeurs retiennent à minima un petit peu de choses de ce qu'ils racontent. Mais donc tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire autre chose. Et il se trouve que cet ami Guillaume avait ce projet d'Escape Game avec Florent. Mmh. Et qu'ils m'ont dit, bon, on attend de trouver un local. Et puis si jamais on a le lieu, on en reparlera plus sérieusement. Ils ont trouvé un local. Donc ça, c'était en juin 2015. 2015, non, 2016. Mmh. En juin 2016. Et,
c'est vraiment très récent, alors.
C'est très récent. En fait, Epsilon a ouvert il y a 1 an et quelques semaines, là. C'est tout récent. Et moi, j'ai rejoint l'équipe donc en septembre 2016. On avait le local. On avait engagé des travaux de grosses œuvres pour monter les cloisons, etc. Et j'ai accompagné l'équipe au départ sur tous les travaux de création des décors et de fabrication des décors. Et
vous vous basez sur quoi ? Il y a des choses préexistantes ? Vous êtes basé sur des schémas existants d'Escape Room ? Vous avez créé la vôtre de A à Z ?
Tout a été créé de A à Z. En fait, les garçons ont inventé l'histoire parce que, alors là, tout dépend des enseignes aussi, mais nous, on met vraiment l'accent très fort sur l'histoire. Il y a une vraie... On raconte quelque chose.
C'est une Escape Room que vous avez ?
Pour l'instant, on propose un scénario. On en aura d'autres qui arriveront. Actuellement, on a un scénario qui est disponible dans 2 salles. On a fait 2 fois la même salle. On a le prochain scénario qui sera dispo dans 2 salles aussi, qui devrait ouvrir. Alors, je ne vais pas donner de date parce qu'on ne tient jamais les délais. Mais en tout cas, ça ouvrira dans le courant de l'année. Et on aura un 3e scénario également sur 2 salles qui ouvrira l'année prochaine.
Il y a une toujours au même endroit ou pas ?
Toujours au même endroit.
Une période de test, de rodage ?
Bien sûr, en fait, donc on a terminé les décors en décembre, terminé toute la mise en place vraiment, donc on a quand même eu 6 mois d'installation de travaux, et ensuite on a eu un mois de bêta test.
Vous faites venir les copains, copines.
Alors on fait venir les copains, on fait venir à l'ouverture les blogueurs spécialisés, parce que
des gens qui connaissent l'univers,
il y en a pas mal,
parce qu'il faut pouvoir les surprendre.
Il faut pouvoir les surprendre, il faut pouvoir déjà ne pas les décevoir. Mmh. Et effectivement proposer des choses nouvelles, des choses originales.
C'est aussi qu'on gère le niveau de difficulté des énigmes.
Alors là, c'est quelque chose qu'on fait même en amont, en fait, parce que les énigmes, avant d'être toutes imbriquées dans une histoire, elles sont d'abord testées individuellement. Et donc ça, c'était vraiment des tests qu'on faisait entre nous. Enfin, c'est souvent Guillaume qui arrivait avec un papier et un crayon qui disait « Vas-y, débrouille-toi avec ça ». Puis il lançait son chronomètre. J'étais, ok, je fais quoi ? Ah oui, d'accord, faut faire ça, ok.
Alors, justement, c'est une des questions que j'avais en tête. L'intervention de Christophe était bonne, ça me permet d'aiguiller sur comment est-ce qu'on fabrique un scénario d'escape game? Est-ce qu'il y a des auteurs particuliers? Est-ce qu'on achète des licences? Est-ce, voilà, comment ça se passe à la base? Parce que le principe de l'escape game, c'est une série d'énigmes. Comment est-ce qu'on monte un projet? Moi, je saurais vous expliquer comment on monte un livre, parce que mon métier à la base, c'est de l'édition. Christophe pourrait vous expliquer comment on fait un court-métrage ou un film, parce qu'à la base, c'est sa formation aussi. Lord Ton Père saurait vous dire des tas de choses
un
passionnantes.
Montage fiscal.
Sur la bourse, sur l'ascenseur de la bourse.
Oui, oui.
Une rubrique qu'il a tenue avec brio dans l'apéro du capitaine. Nico,
mais
serait
mais
capable.
J'ai fait faillite alors, j'ai arrêté.
C'est le problème. Nico serait capable de vous raconter des tas de choses.
Tribunal de commerce.
Je pensais plutôt à la cuisine car tu es très doué en cuisine.
Ah, merci.
Et donc voilà, Clémence, parle-nous un peu du making of, de ce qui se passe avant, comment on recrute les auteurs, où est-ce qu'on trouve tout ça?
Alors, bah, tout dépend. En fait, il y a beaucoup de façons de faire différentes. Là aussi, comme c'est un secteur nouveau, les gens apprennent un peu sur le tas. Il est tout à fait possible d'aller acheter des licences, d'aller acheter des histoires, voire même des mécanismes. En Europe, la capitale de l'escape, c'est Budapest.
Ah ouais.
Il y a une centaine même plus de 100 enseignes là-bas. Et donc il y en a certains qui se franchisent, et c'est tout à fait possible d'aller faire son marché là-bas, choisir les scénarios qui nous plaisent et puis revenir avec un scénario clé en main. Il n'y a plus qu'à l'adapter.
C'est pas bête,
à le construire. C'est pas bête, c'est économique.
C'est moins original.
Après, moi, personnellement, je trouve ça dommage parce que finalement, on se coupe de toute la partie fun de la création. C'est inventer une histoire, inventer des énigmes qui est aussi sympa.
Inventer un univers. Alors, si on regarde sur Internet les photos d'Epsilon Escape, puisqu'on
c'est
en
beau.
Trouve, c'est très joli, c'est très bien designé. Et on sent un univers graphique qui est fort. Et on voit d'ailleurs une photo des deux créateurs, je pense, en noir et blanc, qui est très jolie. Voilà, c'est comment vous avez recruté vos auteurs? Est-ce que c'est eux les auteurs, ou est-ce qu'on trouve des auteurs dans un milieu particulier?
Alors, on trouve des game designers, parce que c'est le même métier finalement que du design de jeux vidéo.
Tout à fait.
On trouve des game designers qui travaillent en indépendant. Et qui vont proposer leurs services à différentes enseignes, qui montent des jeux éphémères aussi, parfois pour des marques, ça commence à se développer.
Ah oui.
Et puis il y en a certains, et on fait partie de cette catégorie Epsilon, qui font tout maison. Donc nous, en l'occurrence, le scénario qu'on propose pour l'instant, le patient de la chambre 8, il a été écrit par Guillaume et Florent. Ils ont tout écrit de A à Z.
Un sacré boulot. Ça représente des mois de développement.
C'est, bah, si on met bout à bout l'écriture de l'histoire, la création des énigmes, et puis tout ce qu'on appelle après le workflow, c'est le flow, la façon dont on va imbriquer les énigmes pour qu'on ait un ensemble cohérent, parce que c'est pas le tout de trouver des énigmes et des choses pour faire réfléchir les gens. Il faut que ça se tienne ensuite, il faut qu'il y ait une logique, il faut que ça s'enchaîne pour que quand l'équipe est dans la salle en train de jouer, elle se retrouve pas à un moment... Bon, alors, on a ouvert telle chose, on a trouvé tels objets, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors, je me permets de parler d'un truc qui m'avait bien fait rire, c'est la série Big Bang Theory, pour ceux qui la connaissent. Et dans l'épisode 16 de la saison 8, j'ai retrouvé la référence sur le net, les héros de Big Bang Theory participent à un escape room, escape game, et ils sont tellement balèzes, puisque c'est des scientifiques et des grosses têtes, qu'ils arrivent à résoudre les énigmes en quelques minutes. Est-ce que c'est réaliste ou...
Non, ça très honnêtement, ça veut rien dire.
Ouais.
Alors, un bon escape, une bonne énigme, elle ne fait pas appel à des connaissances qu'on pourrait avoir. Normalement, une bonne énigme est universelle. Elle peut être comprise sans avoir fait d'études de maths ou sans avoir des connaissances encyclopédiques en histoire ou dans toute autre matière. Ça doit faire uniquement appel à la réflexion.
Du coup, les tranches d'âge.
Alors, les tranches d'âge, tout dépend du scénario, tout dépend de l'ambiance. Nous, le scénario actuellement qu'on propose, ça se passe dans un hôpital psychiatrique.
Oui, bon.
C'est pas forcément ce qui est le plus recommandé pour les jeunes enfants. On a des confrères. En fait, c'est comme au cinéma, finalement. Il y a tous les types possibles. Il y a des escapes qui sont axés films d'horreur. Il y en a à Paris qui reprennent l'histoire de Saw.
Ah oui, quand même.
Ah oui, et tu.
C'est sympa, ça.
Et t'es accroché.
Alors,
et tout.
Je comprends pas. Toi, t'es accroché, moi, j'ai une scie.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait ?
Non, mais qui joue vraiment sur les mécanismes d'angoisse, et c'est super bien foutu. Il y en a qui sont dans un univers beaucoup plus merveilleux, fantastique. La thématique d'Alice au Pays des Merveilles revient souvent. Le côté, évidemment, enquête, Cluedo, Sherlock Holmes, ouais. Ça, c'est très, 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 très prisé aussi. Et puis on voit apparaître des choses. De plus en plus original, parce que souvent je compare l'escape game au cinéma. Quand le cinéma a vu le jour, tout le monde voyait un train entrer en gare de la Ciotat et waouh, c'est un truc de fou. Puis aujourd'hui, on voit des effets spéciaux à tire-larigot et ça nous fait plus grand chose.
On est blasé.
Voilà, et ben les escape games, c'est pareil. Quand les premiers ont ouvert à Paris, tout le monde a dit oh, c'est génial, on est dans l'action, on est le héros de son propre jeu. Même s'il s'agissait juste d'ouvrir trois cadenas. Aujourd'hui, quand on commence à en avoir fait un, deux, trois, bah, l'effet cadenas, on s'en lasse assez vite. Et du coup, on voit des enseignes de deuxième, troisième génération qui proposent des choses de plus en plus originales, de plus en plus recherchées, que ce soit en termes de décor, en termes d'histoire, et en termes de mécanisme.
Ça me fait quand même beaucoup penser à un mix entre le jeu de rôle, le grandeur, le GN, ce qu'on appelle le GN. Alors évidemment, restreint à une pièce, il faut pouvoir, enfin, faut rester dans le raisonnable. Tout ça, c'est un peu l'héritage de tous ces jeux qu'on faisait avec Christophe. Hein, on en a fait pas mal.
Masteriser quelques parties.
Ouais.
La particularité des jeux de rôle, c'est que les joueurs ne font rarement ce que vous aviez prévu. Vous avez prévu un plan à gauche, à droite.
Ils vont
les conduits d'aération.
Ils creusent.
C'est
donc,
ça.
Est-ce qu'il y a des. Là, tout est quand même assez confiné, mais est-ce qu'il y a quand même des surprises
À la différence du jeu de rôle, tous les joueurs qui passent par une room en particulier vont avoir droit au même scénario. Donc, il n'y a pas de variation possible. L'issue est toujours la même. Les énigmes sont toujours les mêmes. Et d'ailleurs, c'est un des. C'est ni une qualité ni un défaut, mais les escape games ne sont pas rejouables, sauf rare exception, il y en a à Paris qui le propose. Mais donc du coup,
quand tu l'as fait une fois,
tu peux pas connais les solutions.
D'accord.
Il n'arrive pas que les joueurs vous désarçonnent dans leur comportement.
Alors ça arrive tout le temps.
Est-ce qu'il y a des gros boulets?
La bêtise humaine n'a aucune limite. Mais on a aussi des super belles surprises et ça fait partie des moments particulièrement jouissifs, surtout quand on a contribué à créer.
Est-ce qu'il y en a qui s'engueulent?
Il y en a qui s'engueulent, mais c'est
est-ce qu'il y a des déclarations de mariage genre
déjà...
que le mec vous a demandé de planquer une bague dans l'escape game?
Alors on n'a pas eu ça, mais on a eu un joueur qui jouait avec son frère et ses amis très proches. Et il nous a fait planquer dans un élément du décor à la toute fin du jeu une photo d'échographie. Il annonçait à tout son entourage qu'il devenait papa.
Oh, génial!
Et là, ils sont tous barrés en lui crachant la gueule.
Non, c'était super mignon.
Ah oui, c'est super. Ouais. Super idée. Ouais. Très, très bonne idée. Ah, c'est chouette. Non, mais alors, est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça
des drôles, un peu croustillants.
Drôles ou affligeantes.
Il y en a pas.
On aime tout, nous.
On était sur les boulets, là.
Sur tous les boulets. Il y a aussi ce moment génial où tu tombes sur une équipe qui comprend toute l'histoire que tu as voulu raconter. Et ça, c'est super parce que tu dis. Ils ont pigé
c'est
et
bon.
Du coup ils avancent et c'est fluide et en plus c'est beaucoup moins de boulot à monitorer
parce qu'il y a un maître du jeu qui est là qui surveille.
Et oui, ça c'est le point commun à tous les escape games. Alors c'était moi au début, maintenant il y a des gens qui le font pour moi. Coucou à toute l'équipe des Epsilos. Mais être game master, c'est un vrai boulot super prenant. Parce que le Game Master, il doit suivre son équipe du début jusqu'à la fin. Il doit toujours savoir où en est l'équipe dans l'histoire. C'est quels objets ils ont déjà trouvés, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'il leur reste à faire.
Oui, tu peux pas faire ça en dilettante. Tu peux pas faire lire ton pari match ou faire ton
trick. Exactement. Robert, regarde à droite. La clé, Robert.
C'est ça. Et c'est ce suivi qui fait qu'on va envoyer les indices au bon moment, sans en dire trop.
Le coup ça pète.
Non, mais des fois... t'as pas vu que les joueurs ont récupéré déjà tel objet et puis tu leur dis vous pourriez chercher de tel côté Mais c'est bon, ça, on l'a déjà depuis 10 minutes.
Les kleptomanes, il y en a qui embarquent des,
ah, mais
des éléments
on
du
décor. On
passe
notre vie à courir après, après les petits objets qui finissent au fond des poches. Et puis, les joueurs nous rappellent « Ah, désolé, on est déjà sur l'autoroute, mais on a 3 cadenas avec nous. »
Ah oui, d'accord.
Donc, on a un nombre incalculable de cadenas en double, en triple dans nos tiroirs.
À chaque redémarrage, il faut pointer qu'il manque rien.
Il faut toujours tout vérifier quand on remet la salle à zéro.
Donc t'as une checklist à faire.
On a une checklist. Et puis après, alors dans les anecdotes, il y a des joueurs qui se prennent tellement au jeu qu'ils vont penser qu'il faut carrément décoller le papier peint. Voir si on a rien caché
Robert,
derrière.
La perceuse.
Et donc, la perceuse.
Et donc du coup,
je pense qu'en urinant après cette porte,
on devrait la
risquer. Et là t'as le game master, mais qu'est-ce que vous faites?
Ah non, mais dans le genre, j'ai une mamie, mais vraiment une mamie toute petite, toute frêle, et qui m'a arraché une poignée de porte. Et après, elle est arrivée à la fin du jeu, genre, je suis désolée, j'ai pas forcé, hein, j'ai pas fait exprès. Hein. Mm-hmm. Oui, enfin là, elle ressort là, quand même complètement.
C'est Nadine Schwarzenegger.
Mais non, d'ailleurs, en fait, on fait un briefing aux joueurs avant le début du jeu, ce qu'on appelle le briefing sécurité, et qui consiste à leur dire, dans à peu près toutes les façons possibles et imaginables, ne forcez jamais, ne cassez rien, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à déchirer, à arracher. Et au début, le briefing faisait 2 minutes quand on a ouvert. Aujourd'hui, il en fait 10 voire 15 pour les groupes dissipés.
D'accord.
Et des engueulades entre les...
Ah oui, alors c'est marrant parce qu'il y a des
c'est
groupes.
C'est combien un groupe?
Alors attendez, les amis.
Pas tous en même temps.
Pas tous en même temps, mais les engueulades, mais alors justement, avant les engueulades, c'est le maître du jeu suit ça en vidéo?
Nous, on a des caméras et des micros.
Et des tasers.
Et donc,
et on aimerait bien parfois.
Est-ce que vous enregistrez ce que vous faites?
Non, parce que déjà, il faudrait une autorisation de la CNIL pour ça. Et
ça
parce
serait
que...
drôle après un best-of des escape games. Je pense qu'il y a, y a un concept d'émission là quand même.
Alors en vrai, il y a des moments où on rêverait de pouvoir enregistrer pour faire des compiles de certaines parties. Donc, je ne peux pas parler sans spoiler, mais qui sont.
Ne spoil pas. Donc oui, la question de Nicole sur les engueulades.
Et donc oui, on a des groupes qui s'engueulent parfois, mais on se rend compte qu'en fait c'est leur mode de communication parce qu'au final, ils finissent souvent sur la fin où c'est de plus en plus intense, on est fatigué, on a beaucoup réfléchi. Ils commencent à s'insulter, ils se pourrissent tous les noms et puis ils sortent et tout est oublié. Ils sont très contents.
Et il y a du role-playing chez les participants ou pas?
Non.
Non.
Non, non. Pour le coup, nous, alors là aussi, je ne peux rien dire sans spoiler, donc j'éviterai.
Non, il faut pas.
Mais le joueur est le héros du jeu. C'est vraiment, c'est comme un point and click. C'est comme un jeu vidéo. D'accord. À la première personne.
Ah oui, c'était bien ça.
C'est vraiment, ça reprend les mêmes codes que le point and click. Et d'ailleurs, des joueurs qui n'ont jamais fait d'escape, mais qui ont fait beaucoup de ce type de jeu, en général, ont tout de suite les bons réflexes, vont identifier les bonnes choses.
Je vois.
Faire les assemblages improbables à la Sam et Max.
C'est ça, Sam et Max, The Road.
C'est ça.
Game de tentacles.
Ouais,
mais c'est vraiment ça. C'est vraiment
Indiana Jones.
Loom, putain, j'étais génial. Mauvais, moi, en plus.
Moi, j'adorais. Il y a eu Monkey Island,
évidemment.
Oui, on est tout à fait dans ça. Je vois qu'il y a un site qui s'appelle escapegame.paris, qui recense toutes les boucles, enfin, peut-être pratiquement tous les escape games de Paris.
Il est en train d'essayer de faire valider le livre des records pour être la personne en France, voire au monde, à avoir fini le plus d'escape games.
Alors, il y a un top 10...
Il y en a à Rodez.
Alors, il y en a partout, il y en a dans toutes les grandes villes maintenant.
Il y a un top 10 des escape games de Paris, donc, et vous êtes 7e, hein, c'est bien quand même, hein, le patient de la chambre 8, et 7e... pratiquement, on va dire, ex aequo avec les autres, parce que quand on regarde la notation en étoiles, vous avez pratiquement le maximum d'étoiles, donc très bien noté ton escape game.
On a travaillé dur pour ça.
Tu vois, pratiquement à 5 étoiles.
Je crois que notamment les décors sont pas mal mis en avant sur cette page, j'avais vu ça.
Bah écoute, en tout cas, c'est sympa.
On parlait tout à l'heure.
Si vous voulez choisir, voilà, vous allez sur escapegame.paris et le guide comment bien choisir son escape game.
Ah, vous choisissez Epsilon et puis c'est tout.
Voilà, alors on vous recommande Epsilon parce qu'on a Clémence, mais une fois qu'on a fait Epsilon, il faut bien.
On le refait.
Mais il y en a plein d'autres qui sont très bien. Et alors, nous-mêmes, on est toujours super contents de recommander des confrères qu'on aime bien.
Alors, c'est justement. Est-ce que vous allez subrepticement tester en anonyme
alors,
ou pas?
Pas subrepticement du tout. En fait, comme c'est un petit milieu, on se connaît tous. Alors, on a des affinités plus avec certains qu'avec d'autres. Mais c'est vraiment les escape copains. Je vous parlais de ce périmètre tout petit dans le centre de Paris. On est très nombreux. Et bien, on est souvent contacté par des entreprises, par exemple,
ah oui,
pour
ça
des
on
grands
va en parler,
groupes.
Ouais.
Et du coup, on se dispatche les équipes. Donc, on travaille vraiment main dans la main. On va jouer dès qu'il y a une nouvelle salle qui ouvre chez un confrère qu'on aime bien. Ils nous invitent. Nous, on les invite chez nous à tester, etc. Venez voir, on a fait une mise à jour. Enfin, c'est vraiment une très bonne ambiance. C'est très agréable de bosser dans ce domaine-là.
Alors, ce qui est très intéressant... Il y a de
l'émulation.
Ouais. Ce qui est très intéressant sur l'Escape, c'est que c'est une première forme de jeu type GN, comme on le disait, ou l'espèce de parc d'attractions en miniature et en intérieur, surtout c'est indoor, donc il peut faire moche, froid comme en ce moment. On peut aller jouer à Epsilon, j'imagine que vous chauffez, pas à moins de 4 degrés, donc ça va.
On a le chauffage, on a installé la clim cet été.
Sauf que c'est une escape room dans le style Groenland.
C'est ça. C'est-à-dire
que le truc est bien maintenu, bien froid.
Ça pourrait se passer dans un frigo. Et là, vous fourniriez, j'imagine, des doudounes, des gants. Non, ça pourrait être drôle.
Il faut qu'ils sortent vite, sinon ils gèlent.
J'ai entendu parler là, très récemment en plus, d'un escape game qui commence avec une partie des joueurs qui est dans une chambre froide au tout départ.
Ça peut être intéressant. J'imagine, vous devez délirer entre vous et penser à plein de concepts, plein de possibilités de trucs complètement délirants.
C'est ça qui est génial en fait, c'est que tout est issu de notre imagination et il y a tellement de possibilités. Et je reprends le parallèle avec le cinéma, mais aujourd'hui il faut proposer des choses de plus en plus originales. Alors il y en a qui vont aller vers toujours plus toujours plus spectaculaire, plus grandiose. Il faut sauver le monde d'une invasion zombie. Il faut sauver le monde. Il faut sauver.
Il faut sauver la planète de Donald Trump.
ça
va être un challenge.
Ça c'est l'escape game, dur d'en sortir. Mais voilà, des choses qui surprennent. Et puis il y en a qui se rendent compte qu'il y a un moment, stop la surenchère, on va proposer des choses qui s'apparentent plus aux films d'auteur. Ou alors dans les choses un peu originales qui sont sorties cette année, il y a la première licence jeu vidéo officielle chez nos confrères de The Game.
Alors The Game, on va en dire un mot, voilà. The Game, c'est le plus gros escape room de Paris. C'est la plus grosse boîte. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 salles.
9 salles.
Ah, 9 salles, donc je suis même pas à jour.
Ils ont 9 salles, mais ils ont certains scénarios qui sont en double.
D'accord, c'est pour ça. Il y a 6 scénarios, excuse-moi. Et donc, le trésor des Templiers est dans l'univers d'Assassin's Creed.
Exactement.
Donc, c'est un univers de licence. C'est la première fois à Paris, en tout cas.
Exactement. Ils ont travaillé avec Ubi, avec des décorateurs, cinéma. Alors, je ne l'ai pas fait, donc je ne donnerai pas d'avis, mais j'ai eu des retours de joueurs et de gens de mon entourage qui l'ont fait et qui ont trouvé ça très chouette.
Ben, j'imagine. Donc il y a un fort développement sur ce type d'activité.
Un fort développement, et il y en a après qui cherchent des choses vraiment très originales. On les aime beaucoup, One Hour, qui sont situés à Charonne, et qui proposent un escape game qui reprend l'histoire de Very Bad Trip. Eux, ça s'appelle Very Bad Night. Et donc là, on est à milieu des invasions zombies et autres trésors à retrouver. On se réveille dans un appartement complètement ravagé. On est enfermé à l'intérieur, évidemment. Suite manifestement à une soirée mouvementée, et il faut retrouver ce qui s'est passé.
Tigre.
Extrêmement bien noté aussi. One Hour, il fait partie du top 10, ce jeu.
Il y a des gros trucs à l'étranger que tu aurais testé?
Alors, à l'étranger, le seul escape que j'ai testé à l'étranger, c'était en Russie. Et j'ai voulu tester une salle qu'on peut faire seule.
Ah ouais, ça existe.
Alors c'est la seule que j'ai trouvée. C'était très très nul en fait. Ça s'appelait Buried, et tu étais censé être enterrée vivante.
Le concept est intéressant.
Donc c'est rigolo sur le principe. Faut vraiment pas être claustro. Ils te mettent dans une caisse. Alors c'est un cercueil.
Ils t'enterrent vraiment.
Ils t'enterrent vraiment.
Ça c'est les Russes. Ils sont drôles ces gens.
C'était une grande caisse. C'est un cercueil que tu peux tenir à deux dedans facile. Bon, il y a des coussins un peu partout.
Il faut les mettre de jeu.
Mais bon, c'était vraiment très 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 limité en termes d'interaction.
Ouais, c'était pas la meilleure expérience. Mais des gens que tu connais autour de toi, est-ce qu'on t'a dit qu'il y avait dans le monde un escape game absolument incroyable à faire, un truc hors du commun, quoi, qui sort vraiment de tout ce qui existe?
Question piège. la Corée du Nord.
En escape,
la bah. Du Captain.
Mais là, c'est escape sur, sur un territoire. Escape le pays, quoi.
Non, pour le coup, on m'a pas fait de recommandations sur des escapes à l'étranger. Mais par contre, je sais que j'ai entendu parler d'un concept qui s'en rapproche à Londres, mais bon, enfin, en fait, je vais pas en parler parce que j'ai plus le nom du truc et je saurais très mal résumer.
Oui, alors attention, il faut pas confondre d'ailleurs les escapes avec les expériences du type la maison hantée qui existe à Paris,
voilà.
Qui
le
sont
manoir,
comme le manoir hanté, pardon, qui est à côté de chez Bragelonne d'ailleurs.
Non, on est passif en fait là.
Où là, on est passif et on suit une bande d'acteurs, on se promène dans un environnement qui est interactif, mais il y a pas d'énigme à résoudre et on assiste juste à un spectacle en mouvement en fait. On est au milieu du décor et on assiste au spectacle.
Alors que dans un escape game, il y a pas de comédien. C'est les joueurs, les acteurs eux-mêmes, finalement. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on a des joueurs qui arrivent et qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils ont entendu Escape Game, on leur a dit c'est cool, ah, je suis curieux, je vais voir. Mais en fait, ils sont devant la salle, prêts à rentrer, ils ne savent toujours pas ce qui les attend. Et ils nous disent mais il y a des gens à l'intérieur, est-ce que. Il faut leur expliquer.
Alors, tu nous parlais justement du B2B, c'est vrai que c'est une activité qui se développe de plus en plus avec l'entreprise. Et en fait, t'as plein de boîtes qui font des séminaires, mais en fait, qui viennent...
pour du team building.
C'est ça, du team building, c'est ça. Je cherchais le terme. Nico, t'aurais pu m'aider là-dessus quand même.
Alors, on parlait justement des engueulades.
Séminaire de motivation.
On parlait des engueulades tout à l'heure. Pour le team building, c'est une activité qui est recommandée quand ça se passe bien dans une équipe, parce que ça va renforcer un climat qui est déjà présent. Donc, une équipe qui s'entend bien, qui communique bien... pas de soucis, bon. Tout le monde va se marrer. Une équipe dans laquelle il y a déjà des tensions.
Allez.
Robert,
allez.
Ça va.
Vous êtes,
non, mais
vous
c'est
êtes
ça,
12,
ça va.
Envoyez le RH.
En fait, ça a tendance à exacerber.
Il est en train de virer, quoi.
Ça a tendance à exacerber les tempéraments des gens. Donc, ceux qui sont un peu petits chefs vont vraiment arriver. Non, moi, je sais, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis, ceux qui sont timides, etc., qui n'osent pas trop s'imposer, vont être encore plus en retrait. Et quand ça communique mal dans une entreprise, dans un escape, c'est une catastrophe.
Et là, justement,
ça pourrait être un bon thermomètre, tu sais.
Ouais,
on va tester votre entreprise.
Hein. Celui qui accompagne, justement, il peut éventuellement jouer ce rôle de dire attendez, il va falloir que vous communiquiez. C'est quelque chose qui est envisagé, ça.
Alors,
cette dimension un peu pédagogique.
En fait, nous, on donne des conseils aussi aux joueurs avant de commencer à jouer. On leur explique qu'il y a trois conseils qu'on donne. C'est observer, parce que c'est un jeu qui est basé sur l'observation. Il y a plein de choses à voir, à entendre. Fouiller, parce qu'on cache des choses, évidemment. Et il ne faut pas hésiter à fouiller partout, tant qu'on ne casse rien. Et le conseil le plus important, c'est communiquer.
Ouais.
En fait, très souvent, dans une équipe, il y a une personne qui va trouver une clé, et puis une autre personne qui va trouver un cadenas, qui va avec la clé. Personne n'échange les infos, personne ne se dit les choses, et du coup, le cadenas reste fermé pendant 10 minutes de plus, et on perd du temps bêtement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, la communication, c'est la base. Que tout le monde ait toutes les infos, et se partage toutes les infos.
D'accord. Et le scénario reste identique pour les entreprises ou pour
bien sûr
c'est le même scénario.
Le scénario est identique.
Question Nico.
Oui, non, juste une question. Enfin, ça m'intéresse tout ça parce que si à titre professionnel, est-ce que il existe des escape rooms mobiles, c'est-à-dire qui se déplacent.
Oui. Alors il y a une boîte parisienne qui s'appelle Coloc, COLOCK, qui propose des escape games mobiles. C'est eux qui se déplacent. Ils organisent ça dans des bars. Ils ont des partenariats avec plusieurs bars. Donc c'est un format un peu plus court. On est sur 40 ou 45 minutes de jeu, je crois. Et qui peuvent, j'imagine, faire ça aussi, du coup,
à domicile,
dans une entreprise, etc.
Ça coûte combien, d'ailleurs, de louer un escape game pour son entreprise ?
Alors, pour son entreprise... tout dépend des enseignes. Hein. Nous, on est sur un tarif qui est très clair. On fait payer la même chose aux particuliers, aux entreprises. Hein. On est sur une tarification à la salle. Donc, un scénario, une salle, c'est 135 € pour une équipe de 3 à 5 joueurs.
D'accord.
Et pour une durée de...
Et pour une durée de... Chez nous, c'est 70 minutes maximum. Chez les confrères, en général, c'est 60.
Si t'es au-delà des 70 minutes, ils te foutent dehors.
Un coup de pied au fond.
Parce que ça veut dire que t'es trop nul.
Anecdote, c'est on a dû apprendre vraiment à gérer avec les mauvais joueurs. Parce que évidemment, tout le monde ne sort pas. Nous, on s'adapte. Alors, là aussi, les enseignes ont toutes des discours différents. Il y en a beaucoup qui mettent en avant le taux de réussite. On a un taux de sortie de seulement 20%. On est très dur. Ou alors, on a un taux de sortie très élevé parce qu'on est accessible à tous. Nous, on revendique... Bah, pas de taux de réussite parce que c'est un chiffre complètement bullshit dans la mesure où, en fonction des équipes, on va pas donner les mêmes indices. On va pas donner le même nombre d'indices, on va pas donner des choses aussi spécifiques à tout le monde. Mmh. Donc, faire une statistique à partir de ça, ça aurait aucun sens. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a seulement 5 équipes depuis l'ouverture qui ont réussi à sortir sans aucune aide. Donc c'est possible.
C'est possible, mais c'est
peu. C'est dur. On a plus de 1000 équipes qui sont passées depuis. Donc,
d'accord.
Et voilà. Et après, nous, on s'adapte en fonction de la progression des joueurs. Il y a des équipes qui vont commencer très très vite au début et puis qui vont s'essouffler parce que fatigue intellectuelle au bout d'un moment.
La mamie, après force d'avoir arraché des poignées de porte,
c'est
bien compliqué.
Il y a des équipes, c'est l'inverse, ils vont mettre un petit peu de temps pour se chauffer au départ, c'est des diesels, mais après quand ils sont partis sur la fin, ils carburent. Donc il faut s'adapter pour... si tu donnes trop d'indices, c'est frustrant parce que le joueur n'a pas l'impression de réfléchir. Si tu n'en donnes pas assez et qu'il piétine, au bout d'un moment, il s'énerve, il risque de casser des choses à ce moment-là. Donc.
Moi, je dis que l'équipe de l'ATG devrait aller faire un 1.
Mais
on
venez,
y a un, faut qu'on
mais
y
vous allez venir.
On va le tester en live.
Et c'est moi qui vais vous monitorer.
Oh mon Dieu.
Et j'ai peur parce qu'on va être nul.
On va être très mauvais. Autre question.
Moi,
je me disais, évidemment, comme on fait ça dans une pièce, est-ce qu'il existe des scénarios ou des boîtes de jeu pour faire une escape game à la maison, chez soi?
Alors ça existe.
Est-ce que vous pourriez licencier par exemple un de vos scénarios pour en faire une boîte de jeu pour la maison?
Alors pour le faire à la maison, déjà c'est compliqué parce que sans le décor, on perd quand même beaucoup de l'intérêt même du concept. Y a une boîte qui s'appelle Escape the Box, je crois. Qui est sorti suite à un Kickstarter aux États-Unis. Et bon, c'est des cadenas principalement. C'est des boîtes avec des cadenas, donc c'est assez vite limité. Le problème majeur, finalement, mais c'est le même que celui qu'on rencontre, c'est que c'est jouable qu'une seule fois. Donc acheter un jeu de société pour faire une partie.
Ou alors faut l'organiser pour d'autres et bon ça enfin on épuise vite. Voilà. Hey Robert, emmène ta famille, viens ce week-end, on va faire un escape game dans ma cave.
Si
c'est vite limité.
T'as des concepts tu sais pour les anniversaires, pour les jeunes enfants. On avait trouvé ça une fois avec une amie, c'est un site qui vendait des.
Tu enfermes ton fils dans un placard.
Non, pas un escape game.
Et là t'es tranquille pour l'anniversaire.
T'es tranquille pour l'anniversaire. Non, c'était un pack complet avec une histoire, des accessoires. Certains étaient téléchargeables et il fallait les imprimer, les découper, les machins. Et puis il y avait tout un scénario comme ça qui était organisé pour un anniversaire, donc une fois. Mais voilà, j'avais trouvé ça plutôt pas mal et c'était vendu en ligne. Tout était directement fait à la maison et
c'est
ça marchait plutôt pas mal.
Ouais, faudrait rechercher ça. Clémence, l'escape game, on voit qu'il y en a pas mal à Paris, mais quand même, vu le prix de l'immobilier parisien, ça doit pas être évident de se développer dans la capitale et plus facile de se développer ailleurs.
Alors, il y a. Les choses ont pas mal évolué en 3 ans parce que les premiers qui ont ouvert ont dû vraiment montrer patte blanche et aller défendre leur projet auprès des banques. On leur disait non mais ce truc là qu'est-ce que c'est déjà pour expliquer ce que c'est
et surtout si ton banquier a pas réussi à sortir.
Ouais. Je comprends pas.
En plus alors aujourd'hui c'est vrai que le concept interpelle, les gens commencent à en entendre parler, donc c'est mais faut pas perdre de vue qu'il y a 3 ans quand tu disais escape game, les gens te regardaient et nous à l'époque avant qu'on ouvre, on était en travaux, souvent les gens toquaient à la porte de la boutique pour savoir ce qu'on allait ouvrir. Et quand j'essayais de leur expliquer, ça finissait toujours. Bon, alors, vous voyez Fort Boyard, bon, vous voyez Sherlock Holmes, un petit mélange des deux, vous êtes enfermé, mais c'est pas du sport.
Et les voisins, ils se plaignent pas des gens qui hurlent dans la.
C'est un immeuble de bureau.
Ça va.
mais non, il y a 3 ans, c'était compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple, même à Paris, d'ouvrir ce type de commerce, d'autant que là, nous, on était la 20e enseigne à ouvrir. Aujourd'hui, on est 25. En un an, il y en a 5 autres qui se sont lancés.
C'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
Et il y en a encore au moins 3, à ma connaissance,
qui sont en préparation.
Il y en a qui ont disparu ?
Pas encore.
Pas encore.
Pas encore. Il va y avoir à un moment un nivellement. Parce que, comme pour le cinéma, comme pour tous les secteurs qui se lancent, et j'espère que ça va être un nivellement par le haut. Mais pour l'instant, tout le monde est encore.
Oui, ça permet de tourner sur plusieurs scénarios en plus. Et pas être bloqué sur une salle, c'est sympa. Et le fait que vous soyez tous comme ça, regroupés un peu sur cette zone, il y a une explication à ça que vous avez identifié ?
Alors, non. Non, je pense
non.
Que...
D'autant que le plus gros, il n'est pas là.
Non,
le plus gros, pour le coup, est excentré par rapport aux autres. Mais
un peu le phénomène mongalais. Oui.
Mais ça ouais, il y a un.
The Gang, il est du côté du Sud.
Je pense qu'il y en a pas mal qui, en fait, justement, pour des questions de loyer, cherchaient un coin central, mais pas encore trop cher. Mm-hmm. Donc, du côté de Strasbourg-Saint-Denis, bah, c'est vrai que rue du Faubourg-Saint-Martin et tout ce coin-là, il y a des... Il y a des boutiques avec des commerces à loyer encore raisonnable. Mmh. Et puis après, il y en a quand même partout dans Paris. Hein.
Oui.
Est-ce qu'il pourrait y avoir, si vous allez juste à côté rue Saint-Denis, des escape games un peu coquins ? On pourrait faire des trucs rigolos.
Ah, ça y est.
Alors, ça n'existe pas en France, mais je sais qu'il y en a un qui a repris la thématique de Fifty Shades of Grey. Je crois que c'est en...
Le donjon.
Je crois que c'est au pays. Je crois que c'est aux Pays-Bas.
Ah, ça m'étonnerait pas. Ah, non, mais ça pourrait être amusant.
Il y a des chances que ça arrive à un moment ou un autre, ne serait-ce que pour tout ce qui est enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. C'est une activité qui commence à bien concurrencer tout ce qui est paintball, karting et compagnie.
Bah oui, bien sûr.
Et du coup, pour tous les EVG, c'est...
Je crois que Dominique Strauss-Kahn est sur le coup.
Ouais, oui, il y a un truc au Carlton. Ou...
À New York. Bon, New York. Alors très bien. Ça, c'est la majeure partie de ton temps, Clémence.
Depuis un an et demi.
Depuis
ouais.
un an et demi, l'Escape Game. Donc, on rappelle que c'est... je la retrouve plus, là, je la retrouve plus.
Epsilon.
Escape. Epsilon, allez, voilà, Epsilon Escape. Et vous retrouvez. Et donc, je vous encourage à aller réserver votre place chez Epsilon Escape. Ils ont un beau site.
C'est ouvert
EpsilonEscape.fr.
Mais ouvert 7 jours sur 7, de 10h à minuit.
Ah ouais.
Waouh. Il en faut des Epsilonettes pour. Comment tu disais ?
Epsilos.
Des Epsilos.
Combien vous êtes à taffer ?
On est. J'ai 8 Game Masters. Ouais, ils sont pas tous à temps plein. Mais pour faire tourner deux salles, sachant qu'en fait nous on est ouvert au grand public à partir de 18h en semaine, en continu le week-end, et la semaine, la journée, l'espace est réservé aux entreprises, donc là c'est ouvert à la demande, et ça nous permet de proposer des prestations annexes, des cocktails, des buffets, séminaires,
ouais,
etc.
C'est chouette. Oui, d'accord, oui, on le voit d'ailleurs dans la dans l'aspect extérieur des salles, qu'on peut recevoir du monde, ça c'est cool.
Oui. On a voulu que ça soit cosy, confortable.
Oui, parce qu'en fait, en plus, si vous travaillez avec une entreprise, comme c'est limité à 5 personnes, on va dire, par énigme, bah, souvent, vous êtes plus nombreux que ça. Donc, j'imagine qu'il y a une partie qui peut attendre pendant que l'autre fait le jeu.
Ça arrive qu'on fasse des roulements, ouais, tout à fait.
D'accord.
Ça, ou alors, on se coordonne avec, justement, les confrères du quartier.
Eh oui, pas bête. Ok, bon, ça c'est ton activité principale, mais tu en as une autre, une activité créatrice.
Une activité secrète.
Pas secrète du tout, puisque vous la retrouvez sur un site qui s'appelle geekzone.fr, dans la catégorie podcast, et là il y a un podcast qui s'appelle Ramène ta science, et Ramène ta science, on va appuyer sur le bouton play pour écouter à quoi ça ressemble tout de suite. C'est parti, j'appuie sur le bouton play.
Je vapote, tu vapotes, nous vapotons. Le verbe vapoter, c'est-à-dire inhaler la vapeur d'une cigarette électronique, est entré dans le Larousse et le Petit Robert en 2015. Un mot nouveau pour une technologie qui a commencé à décoller à partir de 2009 et qui, depuis, a séduit 3 millions de Français. Présenté comme une révolution dans la lutte contre le tabagisme, ce petit appareil suscite pourtant des craintes chez les consommateurs. On l'a bien vu dans le micro-trottoir. Et puis l'e-cigarette, c'est aussi.
Donc voilà, on a Clémence en stéréo.
Moyen de rien foutre à la TG, c'est de passer le podcast d'un autre, tu vois.
C'est concept.
C'est une mise en abîme.
Donc, pas mal, hein. Tu fais donc ce podcast avec le docteur Saucisse, mm-hmm. Il y a un surnom magnifique.
Ah oui, vraiment docteur, pas vraiment Saucisse.
Et donc, pourquoi ? Alors, je me doute de pourquoi un podcast scientifique. C'est le deuxième épisode. Alors, il y a des commentaires sur Geekzone qui sont dithyrambiques. Les gens ont l'air très très contents. Le podcast a l'air d'être un sacré travail. Moi, je l'ai écouté. Donc il y a des micro-trottoirs, il y a des interviews, enfin il y a tout un habillage, c'est tout un montage, donc c'est pas comme nous, on se met pas juste derrière un micro alors
qu'on
raconte des conneries. Non, il y a un gros boulot, donc je vous recommande d'écouter ça, ça vaut vraiment le coup. Et après, ensuite, à la fin de l'article, il y a des références, il y a des liens vers la loi anti-tabac, des documents de santé publique sur la cigarette,
etc. Toute la bibliographie, de toutes les études qu'on cite dans l'émission, et puis des sources.
Donc contrairement à l'apéro du capitaine ou à la
TG,
c'est ce que tout bon média scientifique se doit de faire. En fait.
Tout à fait.
on essaye de faire un bon travail de journaliste.
Par exemple, pour prendre l'exemple du numéro sur la cigarette électronique, combien de temps de préparation et c'est un format de quelle durée ensuite ?
Alors, on est sur un format d'une heure, à peu près. Pour l'instant,
ce qui te laisse le temps
le premier,
de t'exprimer.
Voilà, le premier et le deuxième numéro font une heure, le troisième, on verra. En termes de préparation, alors c'est assez dur à quantifier parce que c'est comme on a tous des métiers à côté, c'est des petits morceaux bout à bout, mais ça a pris beaucoup de temps. On a sorti le deuxième épisode très en retard. Bon, pour des raisons aussi indépendantes.
Daté de septembre 2016, il était sur le Soylent. Alors le Soylent,
on en avait parlé, je crois.
On en avait parlé dans la TG, pardon. C'est cette fameuse nourriture
substitut repas
miracle en hommage, le nom Soylent en hommage à
Soleil Vert de
Harry Harrison, réalisé par Richard Fleischer ou Lester Fleischer. Bon, bref, excellent film à voir. Et donc, pourquoi ces choix éditoriaux ? C'est une envie ? Parce que là, finalement, en deux numéros, tu tournes quand même, Ramène ta science, et c'est un peu focalisé sur, d'un côté, la nourriture, de l'autre côté, la santé, la cigarette. Est-ce que tu vas partir vers des sujets sur l'espace, l'automobile, par exemple, ou autre chose, tu vois ?
En fait, l'idée, c'était de prendre des sujets avec une vraie dominante scientifique dans les enjeux derrière, et de décortiquer tous les impacts que ça peut avoir sur notre quotidien. Donc, effectivement, il y a un côté très conso quand on parle de nourriture, quand on parle de cigarettes, mais on prévoit de faire des épisodes beaucoup plus hard science, avec toujours la même volonté d'être dans la pédagogie et d'expliquer. Moi, l'objectif, c'est que ma grand-mère comprenne tout ce que je raconte. Et le prochain parlera, sans trop en dévoiler, mais parlera d'exploration spatiale.
Sympa. Sympa, on va suivre ça. Et donc ça, t'es en train de le faire en ce moment, t'es en train de le préparer.
On est en train de le préparer.
D'accord. Et donc prévu de le sortir d'ici.
Alors l'idée, après ce petit retard pour le second numéro, on aimerait vraiment partir sur une base d'un épisode tous les deux mois.
Ce qui fait quand même un travail assez chargé.
Ouais, au début, on voulait le faire de façon mensuelle. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait vraiment pas, en termes de temps, c'était impossible à gérer entre les interviews, le montage, les recherches.
L'écriture ?
L'écriture, il y avait beaucoup.
Parce que pour le coup, c'est écrit. Et bien dit, hein, on sent que tu as été journaliste, ça s'entend. Et alors pourquoi Geekzone.fr ? C'est eux qui vous ont accueilli ? Tu leur as proposé le projet ? Tu connaissais quelqu'un là-bas ?
Oui, alors en fait, il faut savoir que donc Geekzone, c'est le site de Caféine et Fastkill, donc ex de chez Joy. Et tous les deux avaient déjà des podcasts. Ils ont notamment Les Clairvoyants, qui parlent de tout l'univers Marvel au cinéma, le MCU. Et ils ont également DLC Dans le Canap, qui est un podcast de conversation animé par Fastkill, dans lequel il reçoit toutes les deux, trois semaines un invité. Et là, c'est de la discussion autour de même pas forcément l'actualité, mais c'est l'histoire de l'invité, ce qu'il a fait dans la vie, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On reste sur des invités, des univers très geeks, de manière générale. Il y a eu des musiciens, il y a eu beaucoup de gens issus du jeu vidéo.
Ça s'appelle Geekzone en
voilà,
même temps.
Voilà, ça s'appelle Geekzone.
Et donc
est
la science a sa place là-dedans.
Et donc la science a sa place. Et au tout départ, alors là je dévoile un petit peu le making-of de la chose, c'est Fastkill et Dr Saucisse qui avaient ce projet d'émission. Et puis, moi, ils m'ont proposé de me greffer dessus. Fastkill s'est mis plus en retrait parce qu'il avait beaucoup trop d'autres projets à gérer à côté. C'est un peu l'homme orchestre. Et c'est lui qui réalise avec brio RTS. Mais donc, du coup, il a décidé de me donner le lead à moi pour toute la partie vraiment journalistique. Et voilà, et donc je me suis retrouvée là-dedans et ça m'a fait bien plaisir de refaire du micro parce que ça me manquait beaucoup. Et puis c'était un petit peu c'est un peu le genre d'émission que je rêvais d'animer depuis toujours. J'ai fait des études de neurosciences. J'ai fait des études de psychologie, puis de neuropsychologie. Et puis j'ai arrêté en dernière année pour dire non, en fait je veux faire de la radio. Enfin, en fait je voulais faire de la radio depuis toujours, mais simplement. Je pense que c'était trop tôt. Et donc finalement, je suis allée faire une école de radio qui s'appelle le STUDEC, le Studio École de France. Et voilà. Et sortie de cette école, bah, donc j'ai travaillé en radio, à faire du flash info, etc. Et j'avais toujours à l'esprit de faire plus de l'émission de fond, où on va creuser les sujets, où on va les décortiquer, expliquer.
Tout l'intérêt du podcast, c'est la liberté de ton et de temps.
Voilà. Et là, on s'est dit, bon, bah, on a l'occasion de faire ça au format dont on a envie. On s'est pas mal inspiré d'Invisibilia, qui est un podcast américain absolument fantastique. Et très produit, très monté aussi sur... Alors là, ça va plus parler de cognition, d'émotion, etc. Tout ce qui touche au cerveau et la psychologie. Mais voilà. Et on a vraiment voulu faire l'émission qu'on aurait aimé écouter sur le sujet, enfin sur les sciences en général.
Alors, disponible évidemment sur geekzone.fr, mais j'imagine sur iTunes, pareil.
Dans vos flux RSS.
Dans les flux RSS. Ok, pas de problème. Des sujets que tu aimerais vraiment traiter, que tu vas traiter, hein, parce que tu vas pas te gêner.
On en a toute une liste. Alors, je vais pas trop spoiler non plus. Mais on parlera sans doute évidemment du cerveau, parce que bah, ça reste un sujet que je connais bien, et puis sur lequel il y a tellement de choses à dire que c'est passionnant. Enfin, c'est pas
surtout
un épisode.
Sur le cerveau de leur tempère.
C'est pas un épisode qu'on va faire, c'est beaucoup. L'espace, on va en parler aussi à plusieurs reprises. En fait, le numéro 3, ça sera le premier volet de toute une série. Donc qui parlera d'exploration spatiale. Allez, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas?
Allez, vas-y.
Ah, crash.
En numéro 3, on va parler des exoplanètes.
Oh là, un bon sujet.
Un beau kiff de SF.
Je crois qu'Herbie va débouler chez vous.
Et puis on aura d'autres sujets santé aussi. On parlera sans doute du sommeil, et notamment des rêves et de la paralysie du sommeil, parce que sujet pas très connu et sur lequel il y a plein de trucs intéressants à dire.
Qu'est-ce que c'est en deux mots?
La paralysie du sommeil, alors pour résumer vraiment très grosso modo, tu te réveilles...
C'est un truc horrible.
Ouais.
C'est
tu te réveilles, mais ton corps ne répond pas parce qu'il n'est pas réveillé, il est encore en mode sommeil. Et donc c'est comme si tu étais prisonnier de ton corps, tu es bloqué. Et très souvent, le cerveau... va faire en sorte que t'aies des hallucinations. Enfin, c'est très très désagréable quand ça arrive. C'est très angoissant pour les personnes qui savent pas ce que c'est. Mais on a des vraies explications.
Non, mais je connaissais bien le sujet. J'étais tombé là-dessus totalement par hasard. Et c'est vrai que ça semble assez abominable. Il parlait d'hallucinations. Souvent, en plus, on invente des histoires où il y a quelqu'un. Enfin, souvent, on retrouve une personne, une présence qui est là et qui ne veut pas forcément de bonnes choses. Et toi, tu es là en observateur, mais avec une espèce de crise d'angoisse, mais que tu ne peux pas calmer, que tu ne peux pas réfréner.
Enfin, c'est quelque
chose sympa, quoi.
Ouais, c'est une des sources d'explication pour les terreurs nocturnes des gamins.
D'accord.
Bon, bah, je vois en effet pas mal de sujets à venir. Christophe, je reviens sur très brièvement, j'ai oublié de te poser la question sur les escape games. Ça te dirait, toi, d'écrire un scénario d'escape game? C'est le genre de choses qui pourrait être tenté.
Pourquoi pas? Ouais, non, ça peut être un challenge intéressant. Ouais.
Bon, bah voilà, hein, je te laisserai les coordonnées de Clémence.
Escape game avec des toilettes qui s'allument toutes seules.
J'ai déjà l'accessoire.
Je pense qu'il y a un créneau.
Je peux faire du conseil technologique.
Oui, la veille techno. Oui, la veille, j'imagine que en tant que geek et en tant que créatrice de podcasts scientifiques, tu as des gadgets, des choses que tu affectionnes particulièrement. Est-ce que tu es une grosse consommatrice de gadgets, d'appareils électroniques?
Fais gaffe, il va te vendre un truc.
C'est parti.
Alors, je suis super bonne cliente pour ce genre de choses. J'aime bien découvrir, manipuler de nouveaux objets, etc. Après, j'essaye aussi de pas trop entasser de choses chez moi. J'ai déménagé là très récemment et j'en ai profité pour faire un gros tri.
Oui, ça, c'est ma femme aimerait que je fasse ça.
Mais dans le genre,
c'est raté.
J'ai toujours un abastag par exemple.
Ah,
oh, le lapin.
Chouette. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ouvrent l'appli Amazon et regardent les ventes flash juste pour rêver? Ça serait possible.
Ça m'arrive parfois.
Je vois qu'on se rejoint sur certains sujets. Écoute, je vous encourage vivement à aller écouter les deux premiers épisodes de alors comment RTS,
ramène ta science.
Je cherchais l'acronyme RTS sur geekzone.fr. C'est vraiment, non seulement c'est très bien fait, c'est une très bonne idée qui t'est confiée le lead de cette émission parce que tu as une voix super agréable dans radio.
Merci.
Donc ça c'est très chouette. Et puis en plus c'est passionnant. Moi j'ai appris des choses sur la cigarette électronique. J'ai appris que c'était je m'en doutais un peu, même si ça peut paraître dangereux, ça reste quand même une alternative très intéressante au tabac et pour aider les gens à décrocher. Moi, j'ai décroché il y a bien longtemps.
Anecdote, j'ai arrêté de fumer. En fait, j'ai pas fumé une seule cigarette depuis le 31 décembre et c'est vraiment suite à la préparation de l'émission.
Ah, super!
Et j'avais pas du tout dans l'intention d'arrêter. Donc, j'étais pas une très grosse fumeuse, mais ça faisait 20 ans que je fumais quand même.
Ah ouais, et là tu t'es dit en regardant les documents.
En fait, à force, j'ai fait toutes les recherches documentaires, donc j'ai eu la preuve scientifique que c'est 1000 fois moins nocif, hein, c'est 95% moins nocif qu'une cigarette lambda. L'interview des personnes en boutique a fini d'achever de me convaincre.
De convaincre.
Et je me suis dit. Autant essayer. Et donc j'ai tenté et j'ai pas retouché une cigarette depuis. Alors est-ce que ça va durer, on verra, mais en tout cas.
C'est une chouette démarche.
Est-ce que la boîte de Mikado, c'est pour compenser?
Non, c'est juste parce que je suis gourmande.
Et qu'elle a pas beaucoup mangé ce soir. On n'a pas tous pas beaucoup mangé parce qu'on a été acheter des sandwichs, manger des bonbons et ouvert des chips. Je suppose que vous l'avez entendu pendant tout ce podcast. Ces podcasts, c'est vrai qu'on ne se prive pas lors de ton père.
Mais non, parce que nous aussi on passe un bon moment.
Exactement. Et on va continuer à passer un bon moment. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces explications. On va passer un bon moment avec Herbie et sa rubrique SF.
La rubrique d'Herbie.
Merci Lord Tempère pour cette introduction formidable. Ouais, il faudrait que Clémence essaye de le faire. Vas-y, fais-nous une intro.
La rubrique d'Herbie.
Ah, c'est bien aussi, c'est bien.
Je suis en train de perdre mon emploi.
Tu es en train de perdre ton job, voilà, tu as tout compris. Allez Herbie, toi tu gardes ton job et tu nous parles des bouquins qui t'ont plu récemment et que tu nous recommandes, bouquins ou comics d'ailleurs, puisque tu fais les deux.
Oui, alors là, cette fois je fais un petit peu thématique pour cette émission-ci.
Très bien, très bien.
Ouais, j'ai réussi à trouver 2-3 idées. Donc l'escape room, moi je suis parti un peu effectivement sur l'idée de la prison, avec ou sans évasion. Et il y a quand même un truc qui est assez classique dans le space opéra, c'est le monde pénitentiaire.
Ouais.
Hein, parce que pourquoi se faire chier à enfermer des gens juste dans un bâtiment plus ou moins bien gardé quand on peut carrément les balancer sur une planète et les laisser pourrir sur place.
Il y a un Bruxolo comme ça qui est terrible, je sais
oui,
pas si
enfer vertical.
Avec le distributeur, c'est
vrai, oui, il faut mettre un doigt.
C'est ça. Alors,
chaque fois qu'il monte, c'est de pire en pire.
C'est de pire en pire, ouais. Et enfer vertical est une magnifique mécanique infernale d'escape room à la sauce de Serge Bruxolo, auteur français.
Sauf que c'est pour se débarrasser des gens.
C'est ça. C'est très 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 bien. Mais
c'est bien pour le B2B.
On ne peut le trouver. On ne peut le trouver que d'occasion, donc puisqu'il n'est pas réédité depuis un moment. Mais vous le trouverez d'occasion assez facilement. Alors faites attention, je connais bien ce bouquin, c'est un de mes bouquins préférés de Serge Bruxolo. Il faut savoir que son édition la plus récente, alors je ne l'ai pas en tête, a été remaniée. Bruxolo l'a reprise et l'a réécrit et a repris des trucs et donc elle est mieux que la version d'origine qui était déjà très bien. Vas-y Herbie, excuse-nous.
Alors, on retrouve d'ailleurs un petit peu cette idée aussi, pas tout à fait au niveau de la planète, mais moi je viens de voir là, un petit flash avec les idées noires de Franquin, avec le type qu'on vient balancer dans une espèce de labyrinthe,
ouais.
Et puis après on vient lui annoncer tiens en fait il y a une aggravation de peine et puis on balance
un deuxième animal
on balance un animal sauvage dans le labyrinthe avec lui. Alors pour ce qui est du monde pénitentiaire en lui-même, j'ai noté 3 petites références. La première c'est Omega de Robert Sheckley.
Oui,
où effectivement le personnage principal Will Barrett, en fait il sait même pas pourquoi il est balancé là, il se souvient pas lui avoir commis un crime. Mais on l'envoie sur Omega qui est une planète carcérale qui d'ailleurs s'est formée en forme de société complète hein, à l'échelle planétaire avec ses échelons sociaux etc. Et donc on découvre un petit peu ce monde qui comme toujours chez Sheckley a des règles un peu spéciales, il tire toujours les trucs un petit peu à l'extrême.
Et voilà, donc bah, puis ce personnage va essayer de s'en sortir et espère un jour pouvoir quitter cette planète de merde. Ouais, et on verra s'il s'en sort ou pas, et surtout quelles sont les surprises qui l'attendent, parce que chez Sheckley, il y a toujours un truc au tournant.
Et c'est toujours drôle.
C'est assez drôle.
Je vous recommande la lecture de Sheckley, parce que c'est un auteur caustique, un auteur un peu oublié malheureusement, mais qui a fait des bouquins excellents.
Alors par contre, ça, pour ce qui est de le trouver, faut faire
ouais, c'est de l'occasion. Ouais.
Je crois que c'était en Pocket.
Pocket SF.
Ouais, en Pocket.
Sûrement.
Alors ensuite, je suis pas sûr que ce soit... Si celui-là, il est encore trouvable normalement, je crois, en folio. Il y a Révolte sur la Lune, de Robert Heinlein.
Ouais.
Qui est pas... Alors c'est le problème carcéral, là, il est plutôt comme point de départ, parce que la Lune a été transformée en colonie pénitentiaire, un peu type Australie ou ce genre de choses. Mais après, on vire dans le récit typique des colons qui décident de s'affranchir. Donc c'est la réécriture en fait de la guerre d'indépendance américaine, et où effectivement ben les colons lunaires vont se révolter et vont commencer à expliquer un petit peu à la Terre que ça va bien un moment de décider toujours pour eux, ils en ont ras le bol, ils veulent faire un peu comme ils veulent. Et voilà, donc c'est un petit peu un classique dans le genre, ça, maintenant.
Chez Folio SF
Je crois que c'est chez Folio SF, maintenant. Ouais.
C'était chez...
Ouais, ça a été chez Pocket autrefois, mais après c'est passé, je crois, chez Folio
SF. Un grand, grand, grand classique de la science-fiction, de l'âge d'or de Robert Heinlein.
Et ça se lit vraiment bien. Et le troisième que j'ai, qui est assez différent, c'est Planète Chaiol, de Cordwainer Smith, qui est une nouvelle ou novelette, ou je ne sais pas, enfin, c'est un texte relativement court, où on va lui aussi suivre un personnage qui va être balancé sur une espèce de monde carcéral, avec aussi des règles très très particulières. Il y a notamment tout un problème autour de la... j'allais dire de l'implantation de nouveaux organes, enfin il y a tout un truc autour de la reconstruction du corps, et c'est un texte qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui est Les Seigneurs de l'Instrumentalité.
Ah oui.
Qui est une vaste histoire du futur, donc qui occupait 4 volumes aussi là en folio SF, et qui est pour moi un très très beau cycle de science-fiction assez différent en fait de ce qu'on trouve chez la plupart des autres auteurs anglophones. Cordwainer Smith, c'est un homme qui a eu une histoire un peu particulière, parce qu'il est dans sa bio, j'aime pas trop la façon dont la bio est présentée sur les bouquins, parce que ça raconte qu'il est spécialiste de guerre psychologique et c'est à peu près tout, alors que c'est un type qui a grandi dans tout un tas de pays à travers le monde. Il a eu pour parrain Sun Yat-sen, qui est le père de la République chinoise. Il a beaucoup vécu en Extrême-Orient, mais aussi un peu partout en Europe. Donc c'est un type qui a une culture très... sa formation intellectuelle s'est faite au contact de cultures assez variées, et ça se ressent dans ses récits. Certains de ses textes sont un peu comme, justement, on retrouve un peu ce côté chinois de textes où on démarre un peu par la pensée, vous savez comment c'est fini l'histoire de machin, machin, mais on va vous raconter un petit peu comment on en est arrivé à ce truc, voilà. Et donc voilà, c'est un bel ensemble au sein duquel on trouve effectivement un monde carcéral, mais il y a énormément de très belles choses à découvrir dans cette série des Seigneurs de l'Instrumentalité. Avec d'ailleurs des très belles couvertures de Manchu, je crois. Oui, c'est ça, c'est du Manchu en folio SF. Alors, au-delà de ces petits bouquins à monde carcéral...
Je peux en rajouter un ?
Oui, vas-y.
Alors, il y a eu une intégrale... Enfin, à une époque, on avait une collection chez Brajlon qui s'appelait Les Trésors de la SF, qui était dirigée par l'ami Laurent Genefort, qu'on salue. Et il a sorti une trilogie de bouquins, enfin pas une trilogie, un assemblage de bouquins d'un auteur extraordinaire que j'adore, qui s'appelle Eric Frank Russell. Ce volume s'appelle Prisonnier des étoiles, et dans Prisonnier des étoiles il y a un roman que je trouve absolument remarquable, qui m'a fait pleurer de rire seul dans mon lit. C'est quand même assez étonnant, et ça s'appelle Plus X. C'est un roman assez court qu'on peut aussi trouver en stand-alone, on va dire, d'occasion chez Pocket, puisqu'il avait été édité chez Pocket SF. Et le principe de Plus X, c'est l'histoire de John Lemming. Déjà, il a un nom prédestiné, qui est un pilote terrien et qui est envoyé en mission un peu suicide de l'autre côté des lignes ennemies extraterrestres, puisque la Terre est en guerre contre une race extraterrestre qu'elle ne connaît pas bien. ils s'affrontent dans l'espace, ils se détruisent de vaisseau, par vaisseau interposé, mais ils se connaissent pas. Donc ils décident d'envoyer ce type-là pour aller enquêter d'un peu plus près. Évidemment, le gars s'écrase sur une planète lointaine et se fait choper au bout de 10 minutes. Il a aucune chance. Et il est enfermé dans une prison, d'où l'univers carcéral, hein, sinon j'aurais pas parlé de ce bouquin. Ce qui est génial, c'est la façon dont Frank Russell va gérer le personnage, qui va, en intoxiquant complètement l'esprit de ses tortionnaires, les rendre complètement fous et faire basculer le sens de la guerre dans, juste par du chat, du blabla. C'est remarquablement bien fait. Et voilà une manière assez originale de s'échapper de sa prison juste par son intelligence et son imagination. Et je vous recommande la lecture de Plus X et de tout le volume, parce que et La Grande Explosion et Guerre aux Invisibles, je crois, qui est dans le même volume, sont des chefs-d'œuvre. Eric Frank Russell étant un immense auteur de SF, méconnu malheureusement en France.
T'as un autre bouquin un peu moins fun qui est un classique, qui est L'Homme dans le labyrinthe de Sylvia Berman.
Oui, tout à fait, tout à fait. Grand là, auteur
où,
aussi,
Sylvia Berman. Là, c'est un peu l'inverse. En fait, c'est un groupe d'hommes qui doit réussir à rentrer dans une sorte de prison carcérale parce qu'il y en a un qui s'y cache à l'intérieur. Je n'en dis pas plus.
Et puis, évidemment, il y a les films, mais on en parlera peut-être à la fin.
Non, je n'ai pas mis les films.
Bon, bah, effectivement,
les films, on pourrait... Il y a Fortress 1 et voilà, Fortress 2.
Avec un certain Christophe Lambert.
Il y a The Game avec...
Absalom 2022.
Absalom, ouais.
Oui, il y a les...
Il y a surtout Cube dans le genre Escape
Game. Tout à fait,
game,
ouais. Cube.
L'Escape Game Ultime.
Tout à fait. Et puis les films d'ado, là, Le Labyrinthe, pareil, c'est un peu un Escape Game, le premier volume en tout cas. Donc, c'est un voilà, Saw, oui, c'est
mon, vrai, mon dans préféré, son genre. C'est le 6, bien entendu.
Oui, le Saw 6.
Saw 7 était bien aussi.
Saw 7 était bien. Vas-y, Herbie, on te coupera plus.
C'est promis.
C'est promis.
Alors, ensuite, je vais vous parler d'un bouquin, j'ai peut-être déjà évoqué, je crois, qui est donc Le Voleur Quantique d'Anura Janiemi, un auteur finlandais qui écrit directement en anglais. Et alors, Le Voleur Quantique, c'est une espèce de space opera martinet de hard science, et bourré de références à l'univers d'Arsène Lupin, où on va voir entre autres que les gens peuvent s'échanger le temps comme monnaie. Et pourquoi j'en parle? Parce que le personnage principal, qui s'appelle Jean le Flambeur, c'est comme ça qu'il s'appelle aussi en anglais, au départ il est enfermé dans une prison où en fait il est confronté à des variantes du dilemme du prisonnier face à des copies virtuelles de lui-même. Mmh. Voilà, et donc au début, c'est comment s'échapper d'un endroit où on est confronté à des doubles de soi-même et autour de problèmes logiques de type dilemme du prisonnier. Et c'est pas simple.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du prisonnier, mais le prisonnier s'est tiré d'abord d'un roman. Enfin, il y a un roman. Je me souviens plus qui l'a écrit, mais c'est un
Dish,
grand.
Je crois.
C'est Thomas Dish.
Mais ça va ressortir prochainement.
Et il y a évidemment cette série. Et là, pour le coup, c'est vraiment de l'escape game, quoi. Dans un village complet, ouais. Le prisonnier avec Patrick McGowan, je vous le recommande. C'est extraordinairement étonnant, étrange. C'est la fin des années 60 et c'est très, très, très en avance sur son temps. C'est une série qui m'a marqué. 18 épisodes, je crois seulement. Alain Carazé, qu'on avait reçu à une époque, est un fan absolu de cette série. Continuons.
Donc, en Le Voleur Quantique, moi, c'est un bouquin que j'ai lu en anglais à l'époque. C'était peut-être pas la lecture la plus facile de l'année, mais c'était vraiment brillant par la quantité d'idées qu'il y a. Et en tant que grand fan d'Arsène Lupin, j'étais vraiment en plus touché par toutes les références que l'auteur avait semé dedans. Mais c'était vraiment bourré d'idées, comme on peut en trouver dans de l'art science, vraiment fouillé. Alors un petit peu de fantasy, là il n'y a pas vraiment d'évasion, mais c'est la dérive naturelle en étant partie de ces idées autour d'Arsène Lupin un peu, c'est Les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch,
oui.
Où là on est dans une ville de fantasy un petit peu lambda, et en fait on suit les aventures de Locke Lamora et de ses compagnons qui sont des enfants des rues qui ont été recueillis par une espèce de temple paumé. Et en fait, sous couvert de temples mendiants, le type qui dirige ce temple les a formés pour devenir l'élite du vol, de l'escroquerie, de l'arnaque. Et donc, on les voit mener des affaires absolument rocambolesques, avec un petit côté, là, plus que la sortie de prison, c'est plutôt le côté effraction, comment rentrer...
Comment faire le vol impossible.
Le côté un peu film de casse, mais de la fantaisie, quoi.
Et avec le 7-Eleven de la fantaisie, le
Ocean's Eleven.
Ocean's Eleven, pardon. De
et avec vraiment
c'est là où je vais acheter mes mes Mountain Dew, mes Dr Pepper aux États-Unis. Pardon.
Et des personnages vraiment hauts en couleur. C'est
Ce qui serait bien, c'est que Scott Lynch puisse finir sa série. Ça, ce serait.
Ouais, bah il travaille sur le 4 toujours. Là.
Oui, oui, depuis 20 ans.
Il a dur, j'exagère. il est plus rapide que George Martin et que Patrofus. Hein.
Oui, Patrick Rothfuss aussi il se fait tirer la barbe pour voilà. pour sortir son prochain.
Ah non, ça avance. Et enfin, l'avantage quand même de la série, il en prévoit en tout 7, il y en a 3 de sortie, on attend le 4e. L'avantage quand même de cette série, c'est que globalement, il y a un truc de fond un petit peu qui se développe de volume en volume, mais la majeure partie de l'intrigue est toujours autocontenue dans chaque volume.
Encore autre chose.
Il y a quand même effectivement une ou deux situations où les personnages se retrouvent dans des trucs, dans des problèmes de type escape room individuel, type buried, voilà.
Ouais.
Enfermé dans un tonneau de pisse de cheval et balancé à la mer, débrouillez-vous pour sortir de là.
Sympa. Non, mais Scott Lynch est vraiment beaucoup d'imagination et en tout cas, L'Oklahoma, le premier volume est formidable.
Alors je vais finir avec.
C'est aux éditions Bragelonne.
Ouais.
Et Milady en poche.
Non, c'est pas
Milady. Ah non, c'est pas. Ah, c'est J'ai lu, t'as raison.
C'est J'ai lu.
On l'a pas fait. On a acheté la version grand format.
Non, les couves, je sont pas terribles.
Bah, c'est pas les mêmes. Ah non.
Non, c'est pas les mêmes. Non.
Ah oui, alors que c'est Benjamin Carré qui a fait les magnifiques couvertures de la version.
La première a même été reprise pour d'autres éditions en langue anglaise.
Elle a été reprise en langue anglaise et ça, c'est rarissime. Et d'ailleurs, ils ont commandé à Benjamin Carré directement la deuxième et la troisième couverture. Puisqu'il sortait d'abord la version anglaise, ce qui est normal puisqu'on fait la traduction ensuite chez Bragelonne, et nous on a repris ensuite les couves anglaises qu'ils avaient commandées à Benjamin Carré des volumes 2 et 3 et c'est Benjamin Carré qu'on salue, c'est un grand artiste, formidable artiste qui nous avait fait qui avait fait la couverture du Ulysse 31 dont on avait parlé avec l'ami David Collin là, de Parallax. Benjamin Carré avait fait avait revisité le personnage du Ulysse 31 sur cette couverture de disque et sur d'autres illustrations de manière remarquable. Donc un très très grand artiste, ce Benjamin Carré.
Alors je vais finir justement avec aussi un très bel illustrateur en parlant de deux comics. Je parlais de Sean Murphy qui est un dessinateur de comics avec deux titres. Le premier c'est Punk Rock Jesus,
ouais.
Qu'il dessine et qu'il a scénarisé lui-même. Et il y a un petit côté aussi pas carcéral mais quand même une idée d'évasion. L'idée de Punk Rock Jesus c'est que à partir du suraire de Turin, on va créer un clone de Jésus. Un embryon qu'on va implanter dans l'utérus d'une femme et qui va faire toute sa grossesse, puis un enfant qui va naître, qui va grandir, et tout ça, on le filme. C'est le Truman Show
de Jésus.
Avec Jésus le clone de Jésus. Le retour. D'accord.
C'est chez Urban Comics.
Voilà.
Et donc, on suit cette mère qui n'en est pas tout à fait une. On suit le grand patron de ce truc. On suit un Irlandais qui est un ancien de l'IRA qui est chargé de diriger la sécurité du truc. Et puis, ce futur bébé, puis enfant qui va grandir et qui va vivre. Et on voit aussi comment le monde réagit à tout ça, hein, avec les problèmes que ça cause, avec tous les groupes religieux divers et variés, la question des droits de cet être, est-ce qu'il a des droits, est-ce qu'il en a pas, est-ce qu'il appartient à la société qui a produit le truc. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Et puis, alors c'est très très beau, moi j'aime beaucoup le style de Sean Murphy, c'est un truc, ce volume-là il est en noir et blanc. Il y a aussi, c'est intéressant en plus, je crois que c'est une postface où l'auteur raconte en plus son petit parcours personnel, comment en fait il a perdu la foi. Et il met un petit peu de tout ça aussi dans ce récit. Donc c'est vraiment une très belle histoire.
Il y a un côté Walking Dead dans la mise en graphique.
Ah oui, bah c'est du noir et blanc, donc forcément ça, effectivement on se rapproche. Mais je trouve que personnellement c'est pas un style que je rapprocherais vraiment de celui de Walking Dead, à part le côté noir et blanc.
Mais ça très joli en tout cas.
Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Et justement, ayant bien aimé Punk Rock Jesus, et en particulier le trait de Sean Murphy, j'ai décidé
Jésus, parce que t'as pas été jusqu'au bout du résumé, du pitch en tout cas, il devient leader d'un groupe de rock punk.
Oui, comme
ça, d'où le titre. Non mais il faut le dire quand même.
Balèze.
Et donc c'est chez Urban Comics.
Et j'ai donc creusé un petit peu plus l'œuvre de Sean Murphy, et j'ai lu aussi un autre de ses comics cette année, Joe the Barbarian, qui lui par contre n'est pas disponible en français, où là il ne fait que le dessin, entre guillemets. Il a un coloriste derrière qui travaille avec lui, je crois que c'est Dave Stewart qui fait tout le Mignolaverse, tout ce qui est Hellboy, etc., qui fait les couverts là-dessus. Et au scénario, c'est Grant Morrison, qui est une des grandes plumes du domaine. Et Joe the Barbarian, en fait, on suit un jeune homme dont le père est mort, on ne sait pas trop si c'est en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, enfin bref, un soldat de l'armée américaine qui a disparu à perpète, qui vit avec sa mère et qui est diabétique, qui vit dans sa chambre tout en haut de la maison, et qui fait une crise d'hypoglycémie et qui doit retrouver son insuline. Sauf qu'il vit entouré de ses jouets, et donc la frontière entre la réalité et le monde de ses jouets se brise. Et du coup, il doit accomplir toute une quête pour sauver l'univers dans lequel sont ses jouets. Et on a toute une transposition, j'allais dire métaphorique quelque part, entre sa maison et cet univers imaginaire dans lequel il est Joe the Barbarian, et où il va être aidé de son rat domestique, de ses figurines de super-héros, de ses mechas, de... Tout ce qu'il a en jouets et autres, et toute la géographie de sa maison se retrouve transposée dans cet univers fantastique. Et alors, comme c'est souvent le cas avec Grant Morrison, on peut retrouver ceux qui ont une culture un peu poussée dans le domaine, peuvent retrouver des références à un tas de choses. On voit passer Batman, ce genre de petites figurines évidemment, mais de toutes sortes qui sont utilisées, mises en scène, et c'est magnifique aussi à voir pour l'œil, et c'est vraiment une
ça a l'air
une
très
histoire
beau.
Vraiment, ouais, c'est très beau, et puis c'est vraiment touchant comme histoire. Donc par contre, effectivement, c'est à réserver aux lecteurs anglophones pour le moment.
Peut-être une version française,
peut-être. C'est chez Vertigo, donc peut-être Urban aussi quand ils auront fini de faire le tour de ce qu'ils éditent à l'heure actuelle. Ils finiront un moment ou un autre par se pencher et ramasser un Grant Morrison qui n'est pas publié en français. Ça finira bien par venir.
Bon,
voilà.
Merci beaucoup, Herbie.
De rien.
On a de quoi lire encore une fois. On va s'arrêter là. Lord ton père, tu as appris des choses. Tu es prêt pour l'Epsilon Escape?
Il faut absolument qu'on le fasse.
Bah oui. Oui. Ah, je vous rappelle, EpsilonEscape.fr, hein, il faut y aller.
Avec Quacos, avec le Captain, avec Nico, avec Herbie, ouais, l'équipe des champions.
Tout à fait.
Ça, ils vont pas regretter.
Herbie, t'es prêt?
Soyez plusieurs.
Bah écoute, on peut essayer. Hein.
Nico.
À fond. Bon.
Très bien, parfait. Merci, on va venir. Merci beaucoup, Clémence. Clémence, c'est ton surnom sur Twitter.
Ouais.
Donc, c'est @, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est @ Clémence, K-L-A-I-M-S. Voilà, avec un K majuscule. Donc, suivez Clémence sur Twitter. Elle raconte plein de choses passionnantes. Et voilà. Et en plus, elle annonce quand il y a les nouveaux épisodes de Ramène ta science.
Tout à fait.
Que je vous recommande donc d'écouter sur geekzone.fr. Voilà, j'ai bien fait la pub.
C'est parfait.
Je crois.
Je vais t'embaucher pour faire des promos chez nous.
C'est ça. Je suis partant. Merci Christophe d'être resté avec nous toute la soirée. Est-ce que tu as appris des choses intéressantes ?
J'ai appris des choses, j'ai passé un très bon moment. C'était l'un des deux ou trois meilleurs moments de ma vie.
Ah bah
carrément.
La naissance de mes enfants en premier, puis l'agence
Tougui. Mais je comprends, comme je te comprends. Ok, c'est super. Merci beaucoup en tout cas d'être venus tous les deux. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, nous allons plancher avec Nico sur de nouveaux sujets, de nouveaux invités. On a des idées, et puis on vous retrouve très bientôt, les amis.
Évidemment.
Bon, et on n'oublie pas alors, Lord ton père, qu'est-ce qu'on fait habituellement sur la musique du générique de fin?
Ah oui, ah. On dit un podcast sans accro.
Voilà,
mettez-nous 5 étoiles.
Voilà, c'est ça, on dit 5 étoiles, hein, absolument. 5 étoiles.
Vous pouvez nous insulter, mais mettez-nous 5 étoiles
sur iTunes. Venez et laissez-nous des commentaires, ça nous fait toujours plaisir.
Positif, les commentaires.
Oui, dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle formule plus courte, plus ramassée, mais.
Mais je pense que c'est bien.
Hein, c'est bien.
C'est dynamique, c'est bien.
Parfait. Bon, on vous embrasse, on vous retrouve la prochaine fois. Et puis, voilà, comme tu disais, un podcast sans accro. Très bien, alors ton père, merci.